D'abord, au préalable, plusieurs choses. Il est clair que la convention avec l'UTB, entre l'IUT et l'UTB, existait avant que je sois directeur de l'IUT. Et effectivement, puisque être directeur d'IUT, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est un poste élu. Hein, ce n'est pas comme l'administration de l'éducation nationale où on nomme un cadre supérieur au sein d'un établissement. Là, dans le système universitaire, l'IUT est une composante de l'université. Ce sont les collègues et le conseil de l'IUT qui élisent le directeur. Et dans mon programme, je dirais, on ne fait pas de promesses quand on est directeur d'IUT. On n'a pas de journaliste, donc on n'a pas besoin de faire de promesses. Il est clair que pour moi, il est essentiel que l'IUT soit un outil de production culturelle du territoire et soit au service des institutions qui produisent du savoir sur le territoire. Et quand on a affaire à une association qui s'appelle Université pour tous, il est clair que nous devons trouver le plus d'arrangements possible pour que ce soit faisable et que l'UTB puisse réaliser ses travaux. Je vais bientôt avoir une maquilleuse. Hein. Ah non, mettez pas le bouton, monsieur Fournier, je vous en prie.
Non, je le mets au milieu.
Une autre chose, donc, merci à monsieur Fournier pour ses gentillesses. Moi, je m'y habitue pas, hein. C'est vrai que ça pourrait me faire rougir. Je vais essayer de vous faire une conférence sur les méthodes en sociologie. Bon, c'est vrai que j'ai une thèse je suis docteur en sociologie, hein, notamment en sociologie des organisations. J'ai passé une thèse à l'Université de Lille il y a quelques années. Et c'est vrai que mon travail, à la fois d'enseignant-chercheur, où j'enseigne beaucoup l'économie des transports et les relations sociales en entreprise, m'a un peu éloigné de la théorie sociologique. Et c'est toujours un vrai plaisir, avec plaisir, que je travaille quelques heures pour essayer de répondre aux interrogations que me fournit M. Fournier. Alors, un autre préalable, vous avez vu sur la première diapo qu'il y a au tableau, vous avez la date du calendrier républicain. Alors, on pourrait en conclure que je suis un fondamentaliste, comme dit M. Fournier. Cette idée me vient d'une vieille coïncidence, puisque en fait la première République a été déclarée le 22 septembre 1792, et c'était quelques décennies avant que je naisse, le 22 septembre étant ma date anniversaire. Donc, depuis que j'ai fait le programme de la Révolution française en histoire, ça devait être en troisième au milieu des années 70, je compte avec le calendrier républicain. Et je trouve que les mois germinal, floréal, prairial sont extraordinairement poétiques. Hein. Le calendrier avait été mis au point, par Fabre d'Églantine. Chaque jour n'était pas le nom d'un saint, mais le nom d'un objet usuel. Donc il y avait la fête du râteau, la fête du marteau, la fête de la faucille, par exemple. Et de la brouette, ouais, exact. Je vais donc essayer aujourd'hui de vous parler des méthodes en sociologie. Alors, je dois vous le dire quand même, je le fais en toute humilité, je ne suis pas un très grand spécialiste de l'épistémologie des sciences sociales, et il a fallu, donc, comme je le disais il y a quelques secondes, que je retourne dans les manuels pour voir quels étaient les principes de base de la sociologie. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais essayer de vous brosser un tableau, de la démarche sociologique avec l'idée de vous montrer, c'était précisé il y a quelques minutes, je ne vais pas répéter votre nom, hein, comme c'était précisé, c'est-à-dire comprendre en fait comment on fait de la sociologie, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un rapport d'étude est un rapport de sociologie et n'est pas un essai littéraire ou un essai philosophique. Alors donc il y a des canons académiques pour être classifié dans les sociologues. J'ai mis sur ma deuxième diapo les noms des quatre principaux ouvrages dont je me suis servi pour faire cette intervention. Et donc j'y reviendrai à plusieurs reprises. Hein, je pense que j'aurai l'occasion de vous citer ça. Donc, On l'avait vu, alors c'est une diapo que j'ai extraite de la première conférence que j'ai faite devant vous, où la question était « qu'est-ce que la sociologie ?» Hein, c'était une des premières diapos. L'idée fondamentale de la sociologie, c'est « tout n'est pas social, mais il y a du social dans tout ». On peut regarder l'organisation des chaises, la construction de cette salle, nos vêtements, nos lunettes, notre attitude, etc. On peut trouver des dimensions sociologiques dans n'importe quoi à peu près. C'est-à-dire que... Alors la question qu'il y a derrière, c'est évidemment, alors, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir de social dans le calendrier, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de social dans une bouteille de vin? Et donc la question qui va arriver après, c'est en fait, qu'est-ce que la sociologie? C'est-à-dire, que veut-elle étudier? Quels sont les champs qui l'intéressent? Quels sont les champs qui ne l'intéressent pas aussi? Alors, j'avais eu l'occasion de vous dire que, globalement, quand même, la sociologie s'était construite un peu tard, hein, surtout à partir du 19e, et qu'en fait, elle s'était créée en se différenciant des autres disciplines. Alors, sur le principe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie, c'est un être humain qui travaille dans son bureau en accumulant les connaissances et qui réfléchit sur les notions... et qui va... il peut alimenter ses notions avec du réel, mais on ne demande pas à un philosophe d'aller sur le terrain, voir si les concepts qu'il utilise ou les démonstrations qu'il a construites sont exacts ou factuellement démontrables. Donc, le sociologue, lui, c'est ce qu'on va lui demander. On va lui dire, oui, mais t'affirmes ça, mais est-ce que t'es allé voir les gens, et est-ce que t'as obtenu un résultat qui correspond à ton affirmation ? Donc derrière, on y reviendra évidemment, c'est l'objet de mon intervention. Et puis, le principe de la sociologie, c'est de se dégager des lieux communs. Je vais prendre un lieu commun qui est à la mode en ce moment dans une partie de la population. Les Arabes sont des voleurs. Le sociologue arrive en disant, attention, vous faites une corrélation, un terme sur lequel je reviendrai, entre deux variables, un terme sur lequel je reviendrai également, et elle mérite d'être démontrée. C'est-à-dire, vous affirmez ça, mais effectivement, et puis le sociologue, ben, je ne vais pas vous faire la démonstration totale, mais il va regarder les chiffres, et puis il va relever la tête, et puis il va dire, des Arabes en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, des Arabes en France. Quand vous dites les Arabes sont des voleurs, vous confondez déjà les Arabes et les Maghrébins, et vous donnez aux Maghrébins une caractéristique particulière qu'ils seraient censés partager tous ensemble. Est-ce que tous les Maghrébins, alors maintenant je regarde à nouveau ma feuille, est-ce que tous les Maghrébins sont des voleurs ? Alors le sociologue, il va avoir un réflexe, il va se poser la question de dire, ben, combien de Maghrébins, de gens d'origine maghrébine, ont-ils été appréhendés par la police pour des actes délictueux ? Et là, il va arriver à une proportion exactement identique à celle qu'on trouve pour les Polonais, ou pour les Italiens, ou pour les Français. Et donc il va se retourner vers celui qui a affirmé, puis il va dire, voilà, votre affirmation, elle est fausse, elle n'a pas de sens, elle ne s'inscrit pas dans le réel. Vous travaillez avec des lieux communs, des préjugés, ils ont leur raison d'être, et il faut y réfléchir, mais votre affirmation, elle n'a pas d'appui concret. Et tout le travail du sociologue, alors je vous ai pris un exemple extrême, hein, histoire d'illustrer mon propos, mais tout le travail du sociologue est celui-là, se dégager des lieux communs, des préjugés, et dire on va regarder la chose avec les outils qu'on a pour pouvoir la mesurer. Et après, on va la confronter à la réalité concrète, c'est-à-dire des gens. Donc on va se différencier, vous l'avez remarqué également dans mon propos, on va se différencier également de la psychologie, parce que la psychologie, elle s'intéresse à ce qui se passe dans la tête des gens. Le sociologue, lui, c'est pas son problème. C'est pas que ça l'intéresse pas, mais chaque fois qu'il va être amené à... que ses notions, ses concepts, ses résultats vont l'amener à devoir entrer dans la tête des gens, il va s'arrêter là. Et puis il va dire, après, c'est plus de mon ressort, la sociologie n'a pas les outils qu'il faut pour comprendre l'attitude individuelle de Caroline ou de Auguste ou de Marcel. C'est du ressort de la psychologie. Et donc, nous, on ne peut pas faire ça. Alors, il y a des sociologues qui se le permettent, mais ils outrepassent leur doctrine scientifique, si je puis dire. Donc, c'était la fin de ma diapo. Les hypothèses, une fois émises, doivent être confirmées ou infirmées par des méthodes définies. Et c'est pour vous parler de ces méthodes que je suis là. Au départ, avec M. Fournier, nous avions parlé, il m'avait parlé, il avait utilisé le terme technique, outil. Et donc, je n'avais pas osé répondre tout de suite en lui disant ces mots-là me chiffonnent, mais je vais voir, je vais aller voir. Et effectivement, les sociologues, dans leur travail, utilisent bien des outils et des techniques, mais on parle très très rarement des techniques de la sociologie, parce qu'en fait, chaque technique doit être insérée dans un raisonnement complet qui va du constat intellectuel, qui va essayer donc de faire la démarche, et je vous expliquerai comment, quels sont les outils que nous avons pour se dégager des lieux communs, des préjugés, des stéréotypes, qui va conceptualiser, intellectualiser, créer des hypothèses, retourner sur le terrain, revenir dans son bureau, assimiler les données accumulées, essayer d'y travailler, épuiser toutes les hypothèses, le vrai, le faux, le contraire, l'inverse, la thèse, la synthèse, etc. Hein, donc une démarche intellectuelle, et toujours retourner sur le terrain, voir si les résultats auxquels il arrive correspondent à une certaine réalité. Donc, en sociologie, on parlera plutôt de démarche. Alors, je vais donc essayer de vous parler de la démarche sociologique. Un réflexe de prof, je donne une certaine définition. La démarche, en fait, ce sont les cadres généraux de l'approche sociologique. Je vais consacrer la première partie de ma conférence à vous parler de ça. Et puis après, je vous parlerai de quelques-unes des techniques que nous utilisons. Évidemment, il est impossible en une heure et quart, une heure et demie, de vous expliquer la totalité des techniques utilisées par les sociologues, comment elles fonctionnent et comment on rentre concrètement dans leur usage. Alors par contre, avant de rentrer dans les outils et les techniques, il y a je l'ai appelé des choses parce que je ne savais pas quel terme utiliser, mais il y a des dimensions qu'il faut absolument connaître, qui sont des présupposés de la sociologie. Ils sont évidemment discutables. Hein, clairement, on peut décider, on peut dire, vous faites comme ça, mais ce n'est pas la bonne méthode. Mais auquel cas, on choisira une autre manière d'agir, mais on ne sera plus sociologue. Il ne s'agit pas de dire que c'est plus vrai, plus faux, ou sans pertinence ou incohérent. Il s'agit de dire, ben voilà, nous on a décidé que la sociologie, ça se faisait comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas de la sociologie. Mais ça ne veut pas dire que vous mentez. Hein, les journalistes ne font pas de sociologie, généralement, mais ce n'est pas pour ça qu'ils énoncent de fausses vérités ou même des mensonges. Ça ne les empêche pas, évidemment, hein, mais... le lien entre démarche scientifique, académique, moi j'ai plus l'habitude de l'appeler démarche académique, mais on peut aussi parler de démarche scientifique, et vérité n'existe pas. Hein. On peut utiliser les schémas, la démarche sociologique pour faire des gros baratins, hein, et on peut utiliser la démarche journalistique ou l'essai littéraire pour décrire de véritables réalités très pertinentes et extraordinairement explicatives. Il n'y a pas de lien. Donc, alors, plusieurs choses à connaître, disais-je. Déjà, le rapport à la sociologie expérimentale. Question, peut-on faire une expérience de sociologie? La réponse, elle est non. C'est impossible. On ne peut pas prétendre isoler un phénomène, l'analyser, le modéliser et en tirer des conclusions. Parce qu'en fait, comme le sociologue s'intéresse à ce qui se passe dans la société... Si vous décontextualisez le truc, comme on le fait par exemple sur les rats dans les laboratoires pour faire des études de chimie ou de physique ou de médecine, vous décontextualisez l'individu social et donc du coup, ça perd son sens sociologique. Vous en faites un élément de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychologie clinique, mais il ne peut plus être un élément de la sociologie parce que ce qui fait la sociologie, justement, c'est l'insertion dans le social. Donc ça, c'est un des premiers postulats de la sociologie, c'est qu'il n'y a pas de sociologie expérimentale. Alors vous verrez qu'on peut quand même faire des études comparatives entre des groupes tests et un ensemble social. Hein, on peut par exemple décider, c'est ce qui a été fait dans une très célèbre enquête qui a été réalisée dans les ateliers de la House and Works à Chicago dans les années 40, fin des années 30, les résultats ont été publiés dans les années 40, où on a isolé des populations en disant on va mettre 40 ouvrières dans une salle Et puis on va comparer leur attitude avec les quelques 3000 ouvriers du reste du site. Bon, très vite, les sociologues qui étaient là se sont aperçus que les outils qu'ils avaient allaient devenir très vite insuffisants pour comprendre ce qui se passait. Et ils ont eu recours à des gens d'une autre nature qu'on appelle les psychosociologues, c'est-à-dire en fait des gens qui ne s'intéressent pas aux phénomènes sociaux, qui ne s'intéressent pas vraiment non plus aux individus, mais qui s'intéressent aux interactions entre les individus et les groupes sociaux. C'est-à-dire comment l'individu se balance, comment il positionne sa propre personnalité psychique au sein du groupe. Alors là, on atteint les limites du champ de la sociologie, parce que des sociologues peuvent pénétrer sur ce champ-là sans devenir psychologue, hein, et des psychosociologues peuvent aller sur le champ de la sociologie sans quitter le champ de leur discipline. Hein. Il y a une interaction qui n'est pas importante, mais qui existe. Donc pas de sociologie expérimentale. Alors, je vais dire, en sciences sociales, les techniques ne sont jamais neutres. Je précise en sciences sociales, parce que si j'enlève l'expression en sciences sociales, ça va nous emmener vers des débats qui vont nous mener vers la mécanique quantique et les interrelations entre Niels Bohr et Albert Einstein, et je ne vais pas m'en sortir. Hein, je n'ai pas assez de culture. Donc, contentons-nous des sciences sociales. Ce qu'il y a de clair, c'est que utiliser une technique, c'est faire des choix. Et dès qu'on fait un choix, on l'inscrit dans le temps et dans l'environnement. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de neutralité possible. Et donc du coup, derrière, la question qui se pose, c'est toute la question de la scientificité et du rapport entre l'objectivité et la science. Et bon, vous verrez que les sociologues, pour la plupart, sont des adeptes d'Edgar Morin et de Karl Popper, qui disaient que la scientificité d'un produit littéraire, elle ne tient pas dans sa totale objectivité et dans sa neutralité. Elle tient dans la démarche, elle tient dans la capacité du chercheur à expliquer comment il s'est positionné, de quoi il est parti, qu'est-ce qu'il a fait, où il est arrivé. Et donc c'est dans la falsifiabilité, c'était le terme qui avait été utilisé pour la première fois, pour la première traduction des travaux de Popper, mais on parlerait aujourd'hui plutôt de réfutation. Hein, c'est dans la capacité de réfuter une démarche et des résultats qu'on va trouver la scientificité des phénomènes. Donc les techniques ne sont jamais neutres. Ensuite, un autre présupposé, c'est qu'il n'existe pas de méthode unique. C'est-à-dire que le rôle du sociologue, c'est de trouver une réponse à une question et à lui de se débrouiller, j'allais dire une grossièreté, à lui de se débrouiller pour faire en sorte que ses résultats soient validables, compréhensibles par son lecteur et qu'ils soient véritablement le reflet de cette société, qu'ils reflètent quelque chose. Les techniques les plus sophistiquées sont tributaires de leur cadre théorique. Ça revient un petit peu à l'idée de la neutralité de la technique, c'est-à-dire en fait que peu importe ce qu'on utilise, peu importe comment on le fait, peu importe pourquoi on le fait, il y a toujours derrière chaque choix intellectuel une base qui correspond à un choix idéologique. Alors, méfions-nous du mot « idéologie ». Vous allez dire que je leur en veux, mais aujourd'hui, les journalistes et les politiciens utilisent ça comme une insulte. Vous faites de l'idéologie. Alors, je ne sais pas quel sens ils donnent au mot « idéologie », mais en français, « idéologie », c'est un système de croyances organisé. Donc, ça ne veut pas dire plus que ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire devant vous, je suis en train de vous présenter la démarche sociologique, je m'inscris dans un cadre idéologique construit, celui de ma discipline. Quand un prêtre fait une messe ou un sermon, il s'inscrit dans un cadre idéologique déterminé. On ne peut pas lui reprocher. Hein, il fait son job. Après, on peut n'être pas croyant, on peut ne pas croire, on peut être croyant et pas d'accord, mais le problème, ça ne remet pas en question l'idée de ce qu'est l'idéologie, c'est-à-dire en fait, comme je le disais il y a quelques minutes, un système de croyances organisé, raisonné, structuré, qui a des valeurs heuristiques, hein, qui a pour objet de fournir des explications. Alors, je me suis basé donc sur l'ouvrage de Durand et Well sur l'approche sociologique. Hein, l'ouvrage s'appelle Sociologie contemporaine. Il en est à sa 4e édition, la première édition datée de 95. Et je vais partir là-dessus, où lui nous montre les principes généraux de l'explication sociologique, le caractère construit de l'objet, la multiplicité des démarches et des techniques. Au préalable, je voudrais vous faire un petit peu d'histoire quand même, un peu d'histoire de la sociologie. Alors, je vais essayer de reprendre mes notes, voilà. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la sociologie, c'est un construit social. Alors, évidemment, vous vous en doutez, les sociologues ne sont pas dupes du fait qu'ils ont été produits par la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la société a eu envie de connaître les gens. Vous avez certainement déjà entendu parler des grands mouvements sociaux du XVIIe puis du XVIIIe siècle, les physiocrates, par exemple, Malthus ou bien d'autres, qui dénonçaient la misère et qui voulaient, par exemple, c'est le cas de Malthus, qui est plus connu pour sa politique d'enfantement que pour sa théorie générale du social, mais Malthus disait qu'il fallait introduire l'hygiène dans les familles. Et il a été, avec les physiocrates, l'un des premiers à dire quelque chose qui était énorme à l'époque, c'était « supprimons l'impôt sur les fenêtres ». Les humains ont besoin d'aérer leur bâtiment. Et donc, mettre un impôt sur la taille des fenêtres, c'est motiver les gens pour réduire le volume d'air qui peut entrer dans le bâtiment. C'est complètement con. Et il a été l'un des premiers également à dire « les paysans sont fiers de leur tas de fumier dans la cour parce que ce tas de fumier représente la richesse de leurs bêtes et leur capacité à les nourrir. Mais c'est une insulte à l'hygiène publique. Et donc il faut faire quelque chose. Ben, » vous voyez, c'est déjà une démarche sociale, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris la catégorie paysan, il a généralisé une information qu'il avait recueillie par le on-dit, parce que lui-même n'avait pas les moyens d'aller vérifier dans les fermes, et il en arrive à des conclusions sur l'hygiène en disant « on peut transformer la société, mais il y a des choses concrètes à faire tout de suite. Hein. » Donc, le système, en fait, il est clair que dans notre sociologie, elle va s'appuyer sur des données de ce type-là. Et les techniques et les méthodes que nous allons employer, elles vont déterminer les résultats que j'obtiens. Je ne peux pas, par exemple, j'aurai l'occasion de vous en reparler plusieurs fois, mais moi j'ai fait ma thèse sur un phénomène statistiquement très rare. C'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse en 1991 et j'ai fait une thèse sur l'introduction des radiotéléphones dans les transports routiers de marchandises. Et il n'y avait pas 1% des camions qui étaient équipés à l'époque. C'était l'époque des premiers téléphones mobiles, et le téléphone mobile de l'époque, c'était plus gros qu'un ampli de chaîne IFI, et vous aviez un combiné en bakélite dessus, c'était le Radiocom 2000, par exemple, un exemple, et ça coûtait très très cher, et ça pesait très très lourd. Donc c'était un phénomène rare. Je ne peux pas m'amuser à faire des statistiques sur ce phénomène en disant « les chauffeurs routiers sont ceci, les chauffeurs routiers sont ceux-là », quoi. Parce qu'il y avait moins de 1% des camions équipés, donc mon directeur de thèse m'aurait dit « Non mais monsieur Moni, vous faites des statistiques, là vous avez un échantillon qui n'est absolument pas représentatif de la société dont vous parlez, et donc vous pouvez à la limite tirer des statistiques sur les camions et les chauffeurs équipés de téléphones mobiles, mais vous ne pouvez absolument pas généraliser votre étude à l'ensemble des transports routiers de marchandises, avec les techniques de la statistique. » C'est-à-dire que, en gros, et je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure, l'échantillon que vous avez entre les mains ne peut pas être considéré comme mathématiquement révélateur de la société, du groupe social dont vous nous parlez. On en est là. Donc, l'existence, évidemment, est liée aux techniques et méthodes qu'elle emploie. On va voir qu'on a progressé au niveau de l'histoire. À des individus associés dans des réseaux, j'ai cité l'AFS parce que c'est la plus célèbre dans notre milieu, l'Association française des sociologues, mais il y en a bien d'autres. Aux préoccupations intellectuelles, quelles sont les préoccupations intellectuelles du moment? À des réseaux de travail et d'évaluation, et à la demande d'informations sur la société. Je vous ai déjà parlé de Malthus et des physiocrates, on pourrait citer tous les sociologues, très très rares, la société, soyons clairs, je vais le dire autrement, la société n'a pas les moyens de se payer des sociologues à gogo, quoi. C'est-à-dire que le CNRS finance les travaux de quelques grands intellectuels, moins d'une dizaine. Le Collège de France en a une petite vingtaine. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que notre société ne va pas s'amuser à payer 800 sociologues pour qu'ils réfléchissent sur un phénomène dont tout le monde se contrefout. Faut être réaliste aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réalité. Les sociologues ont commencé à perfectionner leurs outils quand il y a eu une demande institutionnelle et sociale sur la connaissance de la société. C'est-à-dire quand on s'est rendu compte qu'il fallait en savoir beaucoup plus sur les gens et leur manière d'agir, de penser, d'agir et de faire, comme disait Émile Durkheim, de façon à pouvoir réguler les comportements. Donc on a un lien très très fort, on a donc des individus qui s'intéressent au social, à la société, aux groupes sociaux, des individus qui se regroupent pour vérifier que ce qu'ils racontent, ce n'est pas des conneries, des individus, donc des réseaux qui se créent, et puis des institutions, l'Europe, la France, le CNRS et bien d'autres, qui financent des études et puis qui disent à quelqu'un, ben voilà, tu peux embaucher 3 enquêteurs pour aller sur le terrain, distribuer 6000 questionnaires qui vont te revenir, que tu vas traiter avec un ordinateur, etc., des logiciels, pour en faire quelque chose et tirer des résultats. L'INSEE étant l'institution la plus célèbre avec son recensement de la population. J'y reviendrai sur les recensements, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, on a posé en gros les préalables. Non, il m'en reste un peu. Alors, la sociologie, elle naît, et là je vais aller très vite, quand elle réussit à problématiser son objet et le mode de connaissance. C'est-à-dire quand, aux alentours de Durkheim et d'Auguste Comte, Auguste Comte, faudrait dire d'abord d'ailleurs, Auguste Comte, Georges Simmel, Émile Durkheim, à cette époque-là à peu près, il y a Émile Durkheim qui dit « moi je veux devenir sociologue », l'université française qui lui dit « nous créons pour la première fois de l'histoire de France une chaire de sociologie », c'est-à-dire que vous allez devenir professeur d'université en sociologie, il fut le premier. Auguste Comte se disait sociologue, mais n'avait pas d'enseignement universitaire, et il était professeur de philosophie, et il enseignait la sociologie. Émile Durkheim va devenir le premier universitaire véritablement étiqueté sociologue. Quand elle met la pertinence de ses choix à l'épreuve du concret, ça je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire aller vérifier sur le terrain, et quand en définitive, je cite là l'ouvrage de Berthelot, quand elle se crée un programme de recherche, c'est-à-dire en fait une entreprise raisonnée et méthodique d'analyse et d'interprétation. C'est-à-dire, en fait, quand elle se positionne dans une démarche académico-scientifique, enregistrée par les institutions de recherche, etc., etc. Alors, Berthelot, dans son ouvrage, il se donne pour vocation de rédiger une histoire du mode... Il faut que je reprenne mes notes, parce que sinon je vais me perdre... Voilà. Rédiger une histoire du mode de construction de la sociologie moderne en tant qu'entreprise de connaissances scientifiques du social. Entreprise de connaissances scientifiques du social. Voilà comment on pourrait qualifier la sociologie dans l'expression la plus simple. Je l'ai déjà dit, la sociologie, c'est un construit social qui correspond à l'ambiance générale d'une société. Elle s'est faite sur les bases des intellectuels du 18e et s'est construite tout au long du 19e pour devenir véritablement institutionnelle pendant le 20e, où là on a systématisé, unifié les outils. Elle devient une véritable entreprise scientifique à la fin du 19e, avec Émile Durkheim notamment, en France au moins. Et début 20e, la sociologie va se doter des caractéristiques théoriques, méthodologiques et institutionnelles pour se différencier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de la philosophie sociale. Des gens qui réfléchissaient qui faisaient une réflexion sur la société avec les notions de la philo et de l'essayisme littéraire, dans lequel d'ailleurs Berthelot classe à peu près n'importe quoi, y compris presque la science-fiction et les essais journalistiques. On peut avancer un peu. Alors, je vais vous parler des grandes enquêtes du 19e. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis censé vous parler des techniques de recueil de données, et c'est de là que viennent nos outils, clairement. J'en ai isolé 3, j'aurais pu en faire plus, mais je pense que ça suffira. Je vais vous parler donc de John Sinclair, de Louis-René Villermé et de Le Play. Peut-être vous connaissez Le Play, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le plus célèbre des trois. John Sinclair, en 1799, il produit un ouvrage de 16 tomes, faut que je révise quand même, que je ne dise pas de bêtises, 20 volumes, pardon, je confonds avec Le Play. Il produit un ouvrage de 20 volumes qui est une étude sur les populations écossaises. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il a envoyé aux 160 pasteurs de toutes les paroisses d'Écosse un questionnaire énorme avec des dizaines et des dizaines de questions pour leur demander comment vivaient les concitoyens qu'il y avait autour d'eux. Et les pasteurs ont rempli les questionnaires avec les familles et il en est arrivé à, j'oserais dire, un recueil de données assez volumineux et conséquent sur les comportements et le mode de vie des Écossais entre 1790 et 1799. Alors, il n'avait pas les outils de la sociologie. Il n'en a pas tiré grand-chose, quand même, il faut l'avouer. C'est-à-dire que, on ne peut rien lui reprocher, il s'agit de le remettre dans le contexte. Lui, il avait la sensation que la simple compilation des données allait éclairer l'univers sur la situation des gens. Et c'est là où manque justement la démarche sociologique, qui est de dire, attention, ces données-là ne sont pas neutres, il faut en faire quelque chose, et il faut expliquer au lecteur comment vous avez fait ce quelque chose. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre là-dessus ? Pas grand-chose d'autre. Donc, vous voyez, j'ai écrit, il obtient ses résultats grâce à un questionnaire très élaboré qu'il avait fait parvenir aux 160 pasteurs d'Écosse. Villermé, lui, il va faire un tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton et de laine de soie qui va paraître en 1840. Vous voyez, on avance un peu dans le temps. Et Villermé, lui, il va pratiquer à peu près de la même manière que Sinclair, mais lui, il va se déplacer. C'est-à-dire une nouvelle démarche. Ça peut nous paraître bête aujourd'hui, mais lui, il se déplace. Il faut voir aussi qu'entre 1799, Écosse et 1840, France-Belgique, il s'était passé quelque chose dans les capacités de mobilité des gens. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus aisé de se déplacer en France en 1840 qu'en Écosse en 1791. Donc, Villermé, il va aller voir à Nice, il va aller voir à Lyon, dans laquelle il va passer beaucoup de temps, une agglomération, enfin ça ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque, sur laquelle il va passer beaucoup de temps, dans les filatures de l'île Roubaix-Tourcoing. Il va rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'il n'aura pas l'intermédiaire des pasteurs. Et on peut penser ici, je peux ajouter le détail, que passer par l'intermédiaire des pasteurs, c'est peut-être se priver d'informations gênantes pour le pasteur. Le pasteur va-t-il oser déclarer des choses qui l'ennuient ? Alors maintenant, on généralise, le sociologue, quand il fait son enquête, va-t-il oser déclarer des variables qu'il a perçues et qui emmerde son raisonnement, et même, comme lui-même est un sujet social, va-t-il être capable de percevoir des choses qui pourraient être pertinentes et qui auraient été vues par quelqu'un qui n'est pas lui, qui n'est pas le sociologue lui-même, et qui aurait regardé les gens avec un autre œil, une autre manière, d'autres valeurs, d'autres codes. Donc vous voyez, ne reprochons rien non plus au pasteur, il est un sujet social comme les autres, et à partir de là, il regarde la société avec son œil, son cerveau, ses valeurs, ses codes, sa propre personnalité. Alors, ce qu'on peut dire de Villermé, je suis allé piquer un truc sur Wikipédia, il lui fut confié, donc là, l'idée est intéressante, c'est que déjà, c'est pas lui qui décide. C'est les institutions françaises qui disent, bon, on va envoyer quelqu'un enquêter. Donc on revient dans la relation avec l'institutionnel. Il fut confié entre juin 1835 et août 1837 la visite des départements où les industries de coton, de la laine et de la soie occupaient le plus d'ouvriers. C'est ainsi qu'il se rendit dans les régions que j'ai déjà citées, Lille, Roubaix-Tourcoing, Nîmes, Mulhouse, Saint-Étienne, Lyon. Et lors de chacun de ces déplacements, il va étudier les conditions de travail des ouvriers, mais également leur logement, leur alimentation, leur salaire. Là, on ajoute des trucs dans le système où on commence à dire le comportement de Marcel, ouvrier dans les soieries de Lyon, est en lien avec son salaire, son logement, le quartier où il habite, l'entreprise dans laquelle il travaille. Et là, alors là, on est déjà à fond dans la sociologie. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire le lien entre l'individu qui existe et son environnement social, voire sociétal. Et alors, si on en conclut des choses, je reviens sur la définition du champ scientifique de la socio, si on conclut des choses sur la personnalité de Marcel, on fait de la psycho, c'est pas du ressort du sociologue. Par contre, si on trouve 60 Marcel qui ont les mêmes comportements avec le même contexte, on va se dire, attendez, là, il y a quelque chose qui... Il y a un lien entre les deux, là. Ils sont payés pareil, ils sont payés pareil, et donc ils habitent dans les mêmes quartiers, ils travaillent dans une entreprise qui est organisée sensiblement de manière identique, etc. Et on va pouvoir dire, ben voilà, si on compare la situation de ces 60 Marcel avec les 80 Hector qui travaillent dans l'industrie métallurgique, au Creusot, par exemple, on va peut-être trouver des différences qui sont significatives des comportements de groupe, des comportements de société. Quel prénom on donne à ses enfants? Est-ce qu'on vote plus à gauche? Est-ce qu'on est plus intéressé par tel ou tel phénomène culturel, tel ou tel phénomène social? Et là, on commence à entrer dans la sociologie. Le Play, lui, je vais m'attarder un peu plus longuement sur cet homme, parce que, déjà, il a des caractéristiques sociales qui sont très, très intéressantes. C'est un conseiller de Napoléon III. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. C'est un conseiller de Napoléon III. Il est polytechnicien, très écouté à la cour, et il va être le fondateur de la Société d'économie sociale qui, avec quelques déboires vécus à travers les décennies, existe encore aujourd'hui. C'est une association qui existe encore aujourd'hui. Alors lui, c'est clair que son individualité ne supporte pas la misère et la régression sociale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire de lui que c'est un homme de gauche, hein, clairement. Hein, c'est clair. Oui, M. Fournier ?
Non, il n'est pas de gauche. Ah.
Oui, clairement. Mais ceci dit, bah, oui, mais vous voyez, par exemple, je dis ça parce que traditionnellement, vous voyez, si on se laisse aller aux préjugés, on a envie de dire que ceux qui s'intéressent au fonctionnement social et à la misère des gens seraient plutôt avec des valeurs de gauche. Et il est très conservateur. Hein, Le Play est immensément conservateur. Hein, les enquêtes que lui va faire n'ont pas... Pardon ? Ou peut-être, oui, je ne sais pas ça. Mais parce que alors, juger d'être capable d'être réactionnaire dans le régime de Napoléon III, je crois que j'en ai pas les moyens. Mais dans le système, son idée, elle est très claire, hein, c'est la connaissance du social pour intervenir dessus, hein, clairement. C'est une démarche d'ingénieur. Et il va aller dans la démarche d'ingénieur, M. Fournier a raison, à fond. Il va faire des enquêtes auprès des gens, où il va aller véritablement dans le détail. On trouve, vous voyez, j'ai mis les quatre grandes parties, les quatre grandes catégories qu'on trouve dans ces enquêtes. La définition du lieu, c'est quoi? Très, très précise. La description des rues, dans quel état elles sont, comment ça marche, de l'organisation industrielle où travaillent les gens, de leur famille, combien d'enfants sont nés, combien sont morts, combien machin, combien de divorces, combien de séparations, combien, hein, des descriptions très très concrètes, l'âge des gens, etc. Les moyens de subsistance de la famille, son mode d'existence, alors derrière tout ça, on met comment ils mangent, comment ils s'alimentent, qu'est-ce qu'ils trouvent, comment ils trouvent leur alimentation, quelle est la partie autoproductive, ont-ils les moyens de faire d'avoir de quoi nourrir leur famille avec des choses qu'ils ont faites eux-mêmes, doivent-ils tout acheter, etc. Et puis, il fait un inventaire des biens familiaux qui tient du délire. C'est-à-dire qu'il va aller chez les gens et on voit par exemple, je l'ai noté sur mon papier, là, lors de chacun de ses déplacements, il étudia les conditions de travail des ouvriers, mais également leur logement, leur alimentation, leur salaire, et puis il en arrive à des conclusions où on constate dans ses ouvrages que Madame Machin a chez elle un bijou en verre qu'elle a trouvé dans la rue. Valeur estimée, 1,50 franc. Donc, quand je vous dis ça tient du délire, c'est-à-dire que plus aucun sociologue aujourd'hui ne va jusque-là. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enquête sur les familles en allant jusqu'à demander combien les gens dépensent de baguettes. Est-ce qu'ils font, enfin, peut-être ceux ici, on en fait une enquête sur la nourriture et le pain, mais sinon, quand on veut connaître les gens dans leur globalité, on ne va plus jusque dans ce détail-là. Mais par contre, là où c'est très très intéressant, c'est là où le plus intéressant de Le Play pour les sociologues, c'est qu'il va systématiser le truc. C'est-à-dire, il a dit, voilà, on va demander systématiquement aux gens dans quelle rue ils habitent, dans quel état est cette rue, est-ce qu'elle est recouverte de ce nouveau produit qu'on connaît, le goudron, est-ce que c'est du gravier, du gros gravier, est-ce qu'il y a des nids de poules, etc. Et alors, donc, du coup, il va créer une pléiade de trucs, et il va dire, on va demander partout le même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des comparaisons entre l'habitat des ouvriers de Berlin et l'habitat des ouvriers de Vannes ou de Milan. C'est-à-dire qu'on a le même outil, il systématise, c'est ça l'intérêt fondamental de Le Play, il systématise les critères de recherche. Alors je vous disais il y a quelques secondes, l'intérêt c'est de pouvoir faire des comparaisons. Eh bien, il va encore nous manquer ça. Parce que Le Play ne fait aucune comparaison. Il ne se sert absolument pas des données recueillies pour dire, par exemple, arriver à une conclusion toute bête que j'invente, les ouvriers des soieries lyonnaises sont mieux rémunérés que les ouvriers des entreprises lainières de Roubaix. On ne le sait pas. On le sait si on va dans l'ouvrage et puis qu'on lit le paragraphe sur la rémunération des ouvriers de la soie et le paragraphe sur les ouvriers du textile roubaisien. Mais par contre, lui ne fait pas de synthèse. Il n'a pas encore les outils, tout simplement. C'est-à-dire qu'intellectuellement, les universitaires comme Durkheim et un peu plus tard Weber, donc pour parler des deux grandes branches de la sociologie, n'ont pas créé les outils intellectuels qui pouvaient être utilisés pour faire ça. C'est-à-dire que comme Villermé, il est dans la situation où il estime que exprimer la chose, c'est déjà lui donner du sens. Et c'est sur quoi vont s'appuyer les sociologues pour essayer de dire, bah, attendez, mais ces données-là, elles n'ont aucun sens si on n'en fait pas quelque chose. Il ne suffit pas de dire, il y a des Arabes, il y a des voleurs, et dire, bon, ben voilà, les Arabes sont des voleurs, et puis voilà, on va aller très vite, hein, ça simplifie le raisonnement, et puis on a comme ça, on passe à autre chose, hein, on a une vérité dans la tête, on est bien assis dessus, même, hein, parce qu'il y en a qui s'assied sur leur meilleur profil, des fois, et on s'en sert comme ça. Donc, les sociologues vont arriver, vont dire, non, mais on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de ça. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, donc les informations sont très détaillées, c'est pas la peine que j'y revienne, hein, sanitaire, alimentaire, les croyances, les engagements, etc. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il va porter une attention extrême à l'économie domestique et à l'estimation chiffrée des biens de la totalité des biens de la famille. Que je me repère là-dedans. Alors, une telle méthode, la méthode de recueil des données, elle inaugure en sciences sociales la procédure de codification. C'est-à-dire que c'est avec ces outils-là, et on le sait aujourd'hui, qu'on va pouvoir codifier les choses. C'est-à-dire leur donner une norme et dire on utilise cette norme-là pour toute l'analyse systématiquement. On a des chiffres sur le logement ouvrier à travers l'Europe, on va codifier ça. 1F2, 1F3, 1F4, et enfin, et à côté de ces définitions de logement, ben, on va mettre des populations. C'est-à-dire, on va dire, les F2, qui les occupe, dans quelle population. Et on va obtenir comme ça des données. Donc, en fait, on codifie, on classifie, on catégorise, et on crée des ensembles sociaux dont on espère qu'ils soient cohérents. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai des données statistiques. Mais on est véritablement dans ce type de choses. Donc, mise en place d'un appareil d'observation sophistiqué du social, alors là, il n'y a pas photo. Quand vous avez des résultats, où vous avez une description de la famille qui va jusqu'à dire « Madame Dupont possède chez elle une bague à 1,50 francs qu'elle a trouvée dans la rue », Et un autre bijou, qui sont les deux seuls bijoux de la famille, qu'elle a acheté parce qu'elle a obtenu un héritage de sa tante et qu'avec cet héritage-là, elle l'a placé dans un deuxième bijou qui, lui, a une valeur de 83 francs. Vous avez un tableau de la famille. Vous savez exactement combien il y a de crucifix dans le bâtiment. Vous savez combien il y a de lits, combien il y a d'habitants. Et vous savez aussi, nous, aujourd'hui, on sait qu'en 1820-1840, il n'y avait pas autant de lits qu'il y avait de gens, malheureusement. On n'en était pas là. Donc, vous avez un descriptif du social qui est assez extraordinaire. Et donc, les outils vont être utilisés plus tard pour être systématisés et on était bien dans la démarche. Alors maintenant, historiquement, on s'est placé, on s'est créé la base de ce qui pouvait faire des raisonnements sociologiques. On sait ce que c'est que de recueillir des données. Maintenant, il nous faut aller voir comment on va s'en servir, parce que ça fait un quart d'heure que je vous bassine avec ça, c'est en vous disant que les chiffres eux-mêmes ne se suffisent pas, ne sont pas intrinsèquement signifiants. Et donc, du coup, on va aller voir comment les sociologues s'en tirent. Alors, pour ça, on a besoin de se pencher sur les notions de la démarche sociologique. Et là, je vais plus avoir besoin de mon diaporama pendant quelques secondes, je pense. Donc, d'abord, j'ai mis au tableau la notion de auto-analyse, socio-analyse. C'est très facile à résumer, c'est connais-toi toi-même. Tu veux faire de la sociologie ? Dis-nous, sais d'abord qui tu es. Situe-toi dans le social. C'est ça que ça veut dire. Alors après, on utilise les techniques qu'on peut, qu'on veut, mais derrière l'idée de socio-analyse, d'auto-analyse, c'est dire qui tu es. Et quand tu diras qui tu es, les gens pourront comprendre d'où part ton raisonnement. Parce que tu es, toi, sociologue, le résultat, comme les autres, d'un construit social, de relations sociales, d'interférences sociales, etc. Et donc, du coup, ton positionnement n'est pas celui de la Lune dans l'atmosphère, il est déterminé, au moins en partie, par la société. Et donc, on en arrive aujourd'hui, par exemple, à des théories comme celle d'Edgar Morin, par exemple, qui dit clairement que, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Edgar Morin, mais Edgar Morin a passé sa vie à toujours se positionner intellectuellement d'abord. Première démarche que je fais envers mon lecteur, qui sera ma seule manière d'objectiver le savoir que je vais développer, c'est je dis qui je suis. Je suis, alors moi je vous parlais de moi, je suis fils de conducteur routier, qui a fini sa carrière artisan, profondément ancré à l'extrême droite, antifonctionnaire, républicain cependant, assez agressif, on pourrait développer les variables machin, mais voilà mon positionnement social, c'est dans cet univers que je suis né. Mon père était un ouvrier artisan qui s'est bien démerdé au sein de la vie, qui a réussi à donner à manger à sa famille toute sa carrière, et qui par exemple détestait les fonctionnaires, c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu fonctionnaire sans doute. Parce que j'ai passé ma jeunesse à entendre dire que les fonctionnaires, c'était des feignants. Je vais faire ça. Bon, j'ai un peu raté mon coup, je dois vous dire. C'était un peu du baratin aussi. Donc, alors, vous voyez, c'est la première étape, c'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas faire de la sociologie si tu n'as pas fait le travail sur toi-même pour savoir qui tu étais. Et si tu n'es pas capable de dire à ton auditeur, voilà de quelle base intellectuelle je pars pour faire de la sociologie. Tous les sociologues ne s'y lancent pas, je puis vous rassurer. La deuxième notion qui est incontournable, c'est la rupture ethnocentrique. Qu'est-ce que la rupture ethnocentrique ? C'est une expression un peu barbare, pour simplement dire qu'il ne faut pas juger les gens avec nos propres valeurs. C'est très très proche de la logique de Blaise Pascal, qui disait, plutôt que de penser, alors à peu près, mais plutôt que de penser que ton interlocuteur est un imbécile, pose-toi la question de savoir pourquoi il exprime ce qu'il est en train d'exprimer. C'est-à-dire, en fait, romps avec ta propre logique et intéresse-toi à la logique de celui qui te cause. Et tu verras que ce qui peut te paraître débile, vu avec tes propres valeurs, ça peut prendre du sens si tu te colles dans les valeurs de celui qui l'exprime. On est très très proche de ce dont je vous avais parlé l'année dernière, qui est de la sociologie weberienne, qui disait, les gens disent, c'est rationnel. Ouais, c'est rationnel. Et puis avec ça, ils ont tout dit. Et puis Weber arrive et dit, ah oui, mais ça peut être rationnel par rapport à un but. C'est-à-dire, je veux gagner plus de pognon, je vous méprise tous, j'achète des actions, je revends, et machin, les salariés, les chômeurs qui sont virés, machin, rien à faire, c'est pas mon problème. Moi, j'ai ma rationalité, c'est de gagner du pognon, le reste, ça m'est égal. On est rationnel par rapport à une fin. Et puis, l'exemple que prend Weber, et qui est cité à chaque fois qu'on parle de Weber, c'est la rationalité par rapport à des valeurs, c'est le capitaine de vaisseau qui dit, je ne quitterai pas ce navire tant que je ne suis pas certain que tous les autres l'ont quitté. Quitte à y rester. C'est pour le cartésien rationaliste qui ne voit que la fin, il va dire « je suis complètement con », mais pour la personne qui a des valeurs, c'est absolument rationnel, c'est-à-dire ma valeur fondamentale, je ne survivrai pas intellectuellement, psychologiquement, moralement, à l'idée que l'un de mes marins meurt seul dans mon bateau. Et donc, j'irai jusqu'au bout. Et donc, on a un comportement rationnel par rapport à des valeurs. Et donc c'est la rupture ethnocentrique, c'est celle-là, c'est celle qui consiste à se dire, je ne vais pas regarder l'autre avec mes valeurs à moi, je vais essayer de me dégager de mes valeurs pour me demander quelle est sa logique à lui. Sinon on n'y arrive pas. Si on n'a pas ce trait qui nous permet de dire, ne juge pas l'autre avec tes yeux, mais avec les siens, on n'arrive pas à rompre avec nos valeurs. On ne connaît pas d'autres techniques. Ensuite, l'analyse longitudinale. Je crois que j'avais mis un exemple aussi. Oui, j'avais mis un exemple que je voulais vous citer par rapport à la rupture ethnocentrique. J'ai revisionné il y a quelques semaines le film « Les dieux sont tombés sur la tête » de James Whis. Vous avez vu ce film? C'est génial. C'est génial. Si vous ne l'avez pas vu, jetez un œil, parce que c'est un aviateur qui a un petit coucou, un biplan, hein, il balance sa bouteille de coca vide par au-dessus du cockpit, et cette bouteille de coca tombe dans une tribu de bushmen qui regardent l'objet, et ils vont en faire, eux ne savent pas ce que c'est que le coca, ils ne savent pas ce que c'est que le plastique, ils ne savent pas ce que c'est qu'une bouteille. Donc c'est une bouteille de verre? Oui, c'est une bouteille de verre. Et donc du coup, cet objet va d'abord être regardé comme tombé du ciel et donc des dieux. Bon, un objet divin au milieu de la tribu. Donc si c'est un objet divin, il doit être confié au chef de tribu. Et puis très vite, il va devenir un objet de décoration, il va devenir le résultat d'un piercing, il va machin, et ça va foutre un bins dans la tribu. Mais alors un bordel incroyable! Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faudrait le jeter, il y en a qui pensent qu'il faut absolument le garder, que c'est une valeur divine, il y en a qui disent que machin, et puis finalement tout le monde, j'exagère, mais tout le monde finit par se battre autour de cette bouteille. Et ils décident en conciliabule, en palabre, comme on dirait chez les Africains du Sénégal, en palabre, ils décident de les jeter, cette bouteille, au bout du monde. Parce qu'évidemment, parce que dans la conscience bushman, le monde est, comme dans la représentation des catholiques du XIVe siècle, hein, un tabernacle sur lequel est posé un truc plat, sur lequel se promènent les humains. Et donc, à un moment donné, on peut verser dehors. Je vous rappelle quand même que l'Église catholique a attendu 1986 pour reconnaître officiellement que la Terre était ronde. Donc, tout peut arriver. Donc, je vous conseille d'aller voir ce film. Après, on a l'idée d'analyse longitudinale. On utilise ce vocabulaire-là en sociologie, mais en gros, on pourrait dire l'analyse historique. C'est-à-dire, on va parler d'analyse transversale pour parler, par exemple, de la comparaison entre l'origine sociale et la réussite au baccalauréat, je vous en parlerai tout à l'heure, en 2012. Là, c'est une analyse transversale, et on va parler d'analyse longitudinale pour dire quelle est la part, par exemple, des ouvriers dans la population, dans la population active depuis 1843. Donc, l'analyse longitudinale, c'est ce qui va constituer, j'oserais dire, la base de connaissances. Donc, dans les notions importantes de la sociologie, il y a l'idée qu'on ne peut pas comprendre l'actuel si on ne sait pas comment on y est arrivé. C'est une idée très banale au sein de la connaissance scientifique. Même chez les mathématiciens et les physiciens qui font des recherches fondamentales aujourd'hui, les physiciens estiment qu'ils ne peuvent pas comprendre les nouvelles expériences et les nouveaux outils sans comprendre la manière dont on y est arrivé et qu'est-ce qui a permis de les constituer et qu'est-ce qui fait que ce sont des outils scientifiques ou non. C'est d'une banalité à mourir. Après, les catégories. Alors là, dans les catégories, qu'est-ce qu'on appelle des catégories ? Ben, je vais vous donner la définition. C'est un ensemble d'individus ou de choses réunis sous un même terme parce qu'ils partagent, et on pourrait même dire ils partageraient, certaines caractéristiques ou présenteraient des similarités de n'importe quel type. On va dire, j'ai pris pour être caricatural tout à l'heure l'exemple les Arabes, mais on pourrait dire les jeunes, les vieux, les handicapés, j'en ai mis d'autres là-dedans, les Français, les motards, les ouvriers, bref, en fait, on crée une catégorie. Alors, le problème, c'est que tous les sociologues font des catégories, puisque je vous ai dit qu'on ne s'intéressait qu'aux groupes. Hein. Donc, clairement, mais alors le biais de toutes les catégories, c'est qu'il est très très difficile d'en tracer les limites, les frontières, hein, c'est-à-dire où s'arrête la catégorie jeune, où s'arrête la catégorie motard, où s'arrête la catégorie routier. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait mon enquête sur la thèse, pour ma thèse, j'ai rencontré évidemment des tas de conducteurs professionnels, et dont un monsieur à qui je pose la question « Que pensent les routiers de cet appareil ?» Et je lui montre les appareillages, les dépliants. J'avais un appareil, un Radiocom 2000, et puis j'avais les dépliants de tous les appareils qui étaient prototypiques au sein de l'industrie liée à la télécommunication. Je m'attendais à ce qu'il me réponde sur les appareils. La première chose qu'il m'a répondu, c'est « Ah, moi, je ne suis pas un vrai routier. » Ah, merde. Eh ben oui. Et alors, pour nous, un routier, c'est quelqu'un qui conduit un camion. Ah oui, mais pour lui, il avait passé les premières années de sa vie professionnelle à faire de l'international, Pologne, Iran, Angleterre, Espagne, Maroc. Et il approchait les 45-50 ans. Et il était redevenu chauffeur-livreur dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec de temps en temps quelques tours sur Paris. Et pour lui, routier, c'était l'Iran. Je prends mon camion avec 24 tonnes et je fonce à Téhéran ou à Varsovie. Et lui-même se déclassait en disant « Je ne suis plus un vrai routier ». Je vous prends un exemple maintenant, moins caricatural, mais plus personnel. Je fais de la moto, moi. Mais les gens, j'ai une moto que je conduis, Mais derrière l'idée de motard, les gens placent des choses, quoi. Et je veux bien que des gens qui ne fassent pas de moto me disent « t'es motard ». Mais au sein d'un groupe de motards, je n'oserais jamais me prétendre motard. Moi, je fais de la moto, je ne fais pas d'excès de vitesse. Déjà, ça me distingue de pas mal de motards. Oui, je ne prétends pas avoir des comportements de motard. Je n'ai jamais fait de moto en groupe. Donc, en fait, j'ai une sociabilité, une vie sociale qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est un motard. Mon blouson est en toile, j'ai pas de blouson de cuir, vous voyez. Il n'est pas clouté, non. Donc, vous voyez, dans le système, vous voyez, ce que c'est le problème que ça peut représenter, une catégorie. Maintenant, un exemple très concret. Quand j'ai appris, moi, la sociologie, j'étais en licence, mon professeur de sociologie générale, qui s'appelait M. Tréhanton, qui était un grand de la sociologie, qui a participé à la création de la sociologie du travail en France, disait, faites un test, rentrez chez vous, et prenez un mot, n'importe quel mot dans la langue française, si possible un mot quand même usuel, et demandez aux membres de votre famille de donner, par écrit, une définition de ce mot. Eh bien, c'est incroyable. J'ai choisi, moi, le mot « classeur ». Et j'ai demandé à ma mère, mon père, mes deux sœurs, qui étaient là, de mettre par écrit ce qu'ils appelaient un classeur. Bon, évidemment, ma petite sœur, qui était au collège, elle, c'est un classeur. C'était un petit classeur avec des feuilles perforées, deux trous dans lesquels elle écrivait ses cours. Pour ma frangine, qui est secrétaire médicale, le classeur, c'était un meuble énorme dans lequel on avait des dossiers suspendus. Pour ma mère, qui avait fait un CAP de comptabilité, le classeur était très proche du parapheur. Et puis pour mon père, je ne sais plus. Mais en gros, j'avais en face de moi quatre personnes. J'avais pris le mot classeur, qui était un mot factuel, usuel, et tous mes interlocuteurs avaient une définition différente du mot que j'utilisais. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que Je vous fais un exposé aujourd'hui. Il y aura autant d'interprétations de mon exposé qu'il n'y a d'individus dans la salle. C'est-à-dire que le langage lui-même est une catégorisation. Quand on parle de fleurs, je vais prendre un exemple un peu plus simple pour moi, on va parler de pelouse. Vous avez de l'herbe. Ah ouais, vous avez de l'herbe quand vous n'y connaissez rien. Mais quand vous y connaissez quelque chose, vous avez 12 sortes de graminées, vous avez 14 sortes de tels machins, et des pissenlits, des chardons, des machins, et en fait, quelqu'un qui n'y connaît pas voit de l'herbe et passe là avec la tondeuse en disant « Tiens, il y en a qui sont plus solides que d'autres », et quelqu'un qui s'y connaît voit dans son terrain des dizaines et des dizaines d'espèces d'herbes. C'est là tout le problème de la sociologie. L'un des problèmes fondamentaux de la sociologie, c'est qu'en catégorisant ce qui est son rôle, on crée des biais intellectuels contre lesquels on ne peut rien faire. C'est-à-dire, ça va avec, on est obligé de faire avec cette réalité-là. Alors, voilà pour les catégories. Après, on a les corpus. Alors, les corpus, ça, c'est toutes les sciences qui sont comme ça. Si vous aviez devant vous un physicien qui vous faisait un exposé sur les notions fondamentales d'une discipline scientifique, vous trouveriez les corpus, parce que ce qu'on appelle les corpus, c'est tout ce qui existe, c'est tout le savoir préexistant à ce que vous allez faire. Alors, dans une thèse de sociologie, par exemple, comme la mienne, qui fait 650 pages, le corpus, j'oserais pas dire que c'est 649 pages, mais en gros quand même, alors au niveau universitaire, nous sommes la caricature, les universitaires sont allergiques à ce qu'un étudiant arrive en disant « Je vais vous proposer un truc, chef, ça va être la révolution. » Moi je suis arrivé, j'ai travaillé, mon directeur de thèse m'a laissé conclure ma thèse pendant 4 mois sans que je le voie. Puis quand je suis arrivé, je lui ai dit « Voilà, le radiotéléphone va réorganiser l'ensemble des transports routiers de France et du monde. » Il m'a dit, écoutez Pascal, hein, on va se contenter des gens que vous avez étudiés. Ah, c'est-à-dire, en gros, dites-nous que dans les entreprises où on introduit le radiotéléphone, il se passe des trucs. Mais alors, pour ce qui est de généraliser à l'ensemble du transport de marchandises en Europe et dans le monde, laissez faire les grands. Hein. C'est-à-dire, en fait, que de ma thèse, j'ai dû enlever les 2 derniers chapitres. Concrètement, c'est ça. Et que je suis passé à côté de l'occasion de devenir célèbre. Parce qu'effectivement, l'introduction des radiotéléphones dans les transports a révolutionné l'organisation technique et institutionnelle du système de la mobilité autour des marchandises et des voyageurs dans le monde entier. Mais seulement le jeune étudiant que j'étais ne pouvait pas se permettre, dans un rapport de thèse, de dire « Vous allez voir, ce truc-là, ça va être la révolution. » Parce que pour faire ça, ben, faut s'appeler Edgar Morin à la Touraine. Hein, et en dessous, bon... On va vous dire, écoute, sois modeste, Pascal, hein, et tiens-toi à ce que tu as vu. Donc voilà, les corpus, hein, c'est l'ensemble des savoirs existants. Alors, en sociologie, bien sûr, ce sont les livres de sociologie, les manuels, les techniques, les enquêtes qui ont été faites, les rapports documentaires, mais aussi les essais journalistiques, les vidéos, les films, les photographies. Ça peut être n'importe quoi qui puisse être révélateur d'une situation sociale à un moment donné. J'ai par exemple eu en cadeau il y a quelques mois par mon voisin de la maison de campagne une photo de 1907 avec des gens en costume d'époque évidemment, enfin je crois, que ce soit une photo de carnaval, mais j'en suis pas sûr, des 5-6 bâtiments qu'il y a autour de ma maison de campagne. J'ai devant moi, il y a 7-8 personnes. Les 7-8 personnes sont probablement des paysans du début du XXe siècle. Ils ont des tenues vestimentaires qui sont probablement révélatrices de la manière dont les paysans s'habillaient au début du XXe siècle, dans les alentours de Couches au moins. Hein, après, peut-être que c'est révélateur des vêtements paysans français ou bourguignons, mais alors ça, par contre, il faudrait, pour réussir à le dire, il faudrait d'autres photos de la même époque, avec des gens de même catégorie, de même niveau social, de même métier, etc. Vous voyez, donc là, je suis en train de faire devant vous un raisonnement sociologique, c'est-à-dire, on ne peut pas tirer de la photo elle-même la conclusion de dire, tiens, les paysans bourguignons s'habillaient comme ça en 1907. Non, c'est pas possible. Parce que la catégorie paysan bourguignon n'est pas signifiée par les 8 personnes que j'ai devant les yeux. Il faudrait déjà que j'ai la preuve qu'ils étaient paysans. C'est pas évident du tout. Donc, Les corpus, hein, comme je disais, c'est tout le savoir. Et puis alors, une autre dimension qui, elle, est très très importante, c'est la notion de variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable ? Alors, vous avez vu, j'ai fait la différence entre variable expliquée et variable explicative. Alors, on l'a vu, la démarche sociologique suppose le recueil d'infos, des informations empiriques qu'on a tirées du réel. Et évidemment, ces informations, elles ont une nature qui varie en fonction des questionnements, on l'a vu, puisque c'est un construit social, elles varient en, la manière dont je pose la question, moi, sociologue, va influer les données que je recueille. Donc elle varie en fonction des questionnements, des terrains choisis, évidemment, de l'endroit où je vais poser la question, des personnes à qui je vais poser la question. Donc ça peut être des informations relatives à des groupes, relatives à des individus, à des pratiques, à des opinions, j'essaie de ne pas me perdre, à des interactions sociales qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer parce qu'elles n'ont pas d'existence. Hein, vous vous rappelez, j'avais essayé de vous montrer lors de ma première conférence sur la sociologie que pour le sociologue, 1 plus 1, ça faisait au moins 3. Hein, c'est une donnée de base, c'est-à-dire, j'aurais pu le rajouter dans mes notions d'aujourd'hui, c'est il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Le nous n'a pas d'existence. Le couple, par exemple, n'a pas d'existence concrète. On ne peut pas toucher un couple, ce n'est pas factuel. Ceci dit, si comme moi vous avez eu la chance de vivre en couple, vous savez que ce n'est pas rien. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas dire faire de médisance, mais le simple fait qu'on sait qu'il y a des amis qui téléphonent en disant « Pascal », il y a des amis qui téléphonent en disant « Isabelle », et il y a des amis qui téléphonent en disant « Vous ». Et donc on a bien, au sein du foyer, au sein du couple, on a bien 3 entités. Et encore, il faut ajouter les enfants après, parce qu'il y en a des fois, ils disent « Vous », mais c'est que nous deux. Et puis il y en a d'autres qui n'imagineraient pas, qui ne nous imagineraient pas en dehors de nos 2 enfants, et quand ils disent « Vous », c'est 4. Et donc, on a bien, je ne veux pas dire que 1 plus 1 c'est faux, hein, quand on se situe dans la logique mathématique de type euclidien, mais en sociologie, ça ne peut pas être vrai. Si on a 2 individus qui interagissent, on a l'individu A, l'individu B, et l'interaction qui les unit, qui n'est pas rien, même si elle n'est pas palpable, comme dit l'architecte dans Mission Cléopâtre. Vous avez vu ce film ? Alors ça, c'est une satire sociologique de l'entreprise de bâtiment. Je m'excuse s'il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment parmi vous, ou qui ont travaillé. Enfin, de toute façon, ils savent déjà. Donc, je disais, les variables. Alors, dans la mesure où les informations recueillies désignent des traits de la réalité qui varient d'un cas à un autre, ben, elles sont communément appelées variables. C'est con de le dire, mais c'est comme ça. Alors, après, la notion de variable, ça va permettre d'exprimer, de rendre explicite les similitudes et les différences entre les résultats obtenus. C'est-à-dire que la variable, elle va être le résultat d'une catégorisation. Et avec ça, on va chercher à expliquer, ou on va expliquer, ou on va s'en servir pour expliquer. Donc on va avoir la différence entre variable expliquée, variable explicative. Quel est le comportement actuel des jeunes de 20 ans ? Les jeunes de 20 ans deviennent ma variable expliquée. C'est-à-dire, c'est ce que je veux justifier. Maintenant, quelles sont les variables explicatives que je vais utiliser pour expliquer ce qu'est un jeune de 20 ans ? Je n'ai pas idée, hein, mais le niveau scolaire, par exemple. Où sont les jeunes qui ont 20 ans ? Dans quelle école ? Qu'est-ce qu'ils font ? Etc. Le nombre de sorties dans les discothèques. Le budget bistrot et le budget livre. On va pouvoir utiliser de multiples variables pour dire les jeunes, voilà, en termes de comportement culturel, par exemple, vont tant de fois au cinéma par an et ils vont, par exemple, achètent autant de bouquins ou vont tant de fois à la bibliothèque. Et donc, on a expliqué la variable jeune de 20 ans avec des variables explicatives qui peuvent être de n'importe quelle nature. Et donc, vous voyez, on en revient toujours à mon raisonnement du début, c'est donc je fais des choix. C'est-à-dire, pour expliquer le comportement des jeunes de 20 ans, je vais parler de certaines variables qui sont bien le résultat de choix. C'est-à-dire, je viens de les imaginer là maintenant. Évidemment, pour faire une enquête de sociologie sur les jeunes de 20 ans, il faudrait se pencher un peu plus sur le problème et puis améliorer mon corpus et que je puisse dire, voilà, on a tant d'enquêtes qui ont mesuré déjà telle variable, telle variable, telle variable. Elles arrivent à des résultats de type pertinent. Moi, je vais essayer de regarder, par exemple, quelle est la fréquentation des boîtes de nuit et quel est le comportement des jeunes de 20 ans à l'intérieur des boîtes de nuit. Est-ce qu'ils dépensent énormément d'argent? Est-ce qu'ils picolent avant d'entrer dans la discothèque et ne boivent qu'avec une seule bière ou un seul whisky pendant toute la nuit? C'est quel type de dépenses ils effectuent, etc. Et on pourrait avoir des types de comportements qu'on pourrait dresser comme ça. Donc on a des variables explicatives et variables expliquées. Alors je vais maintenant entrer dans les... Je vous ai posé les différentes notions, hein, le vocabulaire. On va maintenant entrer dans les techniques quantitatives, les vraies, hein, c'est-à-dire quels outils on utilise. Alors, les techniques quantitatives, on va finalement, évidemment, les différencier des techniques qualitatives. Hein, on fait cette opposition-là, et des fois, on a du mal à faire la frontière entre les deux, comme pour n'importe quelle catégorie. Excusez-moi d'avoir des raisonnements tautologiques, mais c'est un peu ça quand même. Donc, les techniques quantitatives, c'est l'ensemble des méthodes et des raisonnements utilisés pour analyser des données standardisées. Celles de Le Play. Avec les données de Le Play, on peut faire des stats d'enfer sur la population ouvrière européenne de l'époque où il a fait son enquête. Durkheim, quand il fait son enquête sur le suicide, il utilise plusieurs dizaines de milliers de fiches à travers l'Europe pour créer des moyennes, des coefficients, enfin, non pas de son époque, des moyennes, des écarts-types et des statistiques à partir des données qu'il obtient. Il y a tant de catholiques qui se sont suicidés en telle année. On regarde la courbe, tiens, on va étudier l'heure à laquelle se suicident les gens. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un seul moment de la semaine, je vous en avais déjà parlé, il n'y a pas un seul moment de la semaine plus que le dimanche après-midi, où les gens se suicident. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire, vous prenez la semaine 4 de l'année 1893, vous avez une flèche, une courbe qui monte vers le haut le dimanche après-midi. Vous prenez la semaine 12 de l'année 1894 en Italie, alors que la première était en France, vous avez le dimanche après-midi une flèche, machin. Alors Durkheim regarde les stats, il dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a là une régularité statistique qui est étonnante. Comment puis-je expliquer ça, quoi? D'où ça vient, quoi? Et je vous en avais parlé également, et ceux qui n'étaient pas là peuvent l'entendre aujourd'hui, c'est que quand on est dans une situation psychologique désespérée, dont Durkheim se foutait complètement, soyons clairs, hein, lui, il pensait qu'on était des choses sociales. Hein, donc, il pensait que nous étions totalement déterminés par la société. Que tout ce que nous étions, c'était du social. Hein, donc, l'état psychologique de la personne, Durkheim, il sent tamponner le coquillard. Quand même. Mais par contre, il constate que dans la sociabilité de l'Europe occidentale à la fin du 19e, il n'y a pas un moment où la solitude est aussi lourde que le dimanche en fin d'après-midi. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas seuls dans cette société, en 1892, il faut bien replacer, parce qu'aujourd'hui peut-être c'est le samedi soir, hein, mais en 1892-93, c'est clair que la sociabilité se fait surtout à ce moment-là. Les gens sont au bistrot, les gens sont à l'auberge du coin, sont en famille, sont machin, et la solitude n'est jamais aussi pesante qu'au moment où tous les autres acteurs sociaux sont en train d'assumer une activité sociale. Et il explique, alors je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je ne peux pas le démontrer, mais par contre son explication est cohérente. Voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez, je tiens encore un raisonnement sociologique devant vous, c'est-à-dire je n'aurai jamais la preuve que ce qu'a dit Émile Durkheim, c'était vrai, si c'était la vérité. Et on ne peut pas se servir de cette donnée pour aller voir Auguste, qui s'est suicidé dimanche soir. Pourquoi s'est-il suicidé? C'est-à-dire, c'est une tendance. Ça n'est pas la psychologie d'Auguste dont il est question ici. C'est une tendance sociale. Parce que le sociologue est souvent confronté à ce raisonnement, c'est vous allez trouver quelqu'un. Vous tenez un raisonnement sociologique, et le quelqu'un qui est en face de vous, qui ne croit pas aux phénomènes sociaux et collectifs, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, il va vous dire, ouais, mais moi je connais quelqu'un, il s'est suicidé le dimanche après-midi, mais c'est pas parce qu'il était seul, toute sa famille était dans le salon. Oui, mais c'est pas de ça dont je te parle. Moi je te parle d'un phénomène collectif, d'une tendance sociale. On pourra toujours trouver un contre-exemple. Mais le sociologue, lui, ne s'intéresse pas aux contre-exemples. Ce qui l'intéresse, lui, c'est les régularités statistiques, justement. C'est-à-dire, est-ce que tu peux tirer de la donnée que tu as, est-ce que tu peux tirer un raisonnement qui concerne un groupe social? Si ça concerne un individu, c'est plus de son sort. Vous voyez, donc ça revient toujours à dire, laissez-moi faire mon boulot d'analyse du système, Et n'en tirez pas plus que ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. On fait de la sociologie électorale, les journalistes font de la sociologie électorale et disent, voilà, 43% des gens ont voté pour Albert. Le sociologue, lui, il va dire, oui, mais 43% des gens, donc ça veut dire 43% des avis favorables, finalement. C'est ce que semble nous faire croire le journaliste. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ah oui, mais celui, je vais prendre un nom exact, hein, celui qui a voté Hollande, il a peut-être voté parce qu'il aimait Hollande. Mais il a peut-être aussi voté parce qu'il détestait Sarkozy. Et on ne peut pas conclure de choses sur la popularité de Hollande à travers les statistiques électorales. Il nous faut d'autres données. De la même manière que les journalistes, les instituts de sondage aujourd'hui vont vers les gens et disent « Est-ce que vous pensez que François Hollande est digne de diriger la France ?» Ah, comme nous, les Français, on est des râleurs de base. Je dis, pas du tout. Alors vraiment, c'est vraiment ce mec, vraiment pas du tout. Alors, ils disent, voilà, 32% des Français pensent que François Hollande est apte à diriger la France. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce 32%? Qui a répondu pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être qui pensent que... Il y en a peut-être qui font confiance à la totalité des membres du PS pour gérer le gouvernement, sauf à François Hollande, qu'il considère comme une guimauve liquide et que franchement, ce mec-là, n'importe qui, pas ce mec-là. Mais il y en a qui ont peut-être répondu en disant « Mais moi, je suis à l'UMP, moi. Donc, de toute manière, je pense que François Hollande ne sera jamais digne de diriger la France. » Et puis, il y en a un troisième, peut-être, qui pense, si on lui avait dit « Mais et Sarkozy, bah, pareil, hein, c'est le même. Hein. » C'est-à-dire, il n'est absolument pas digne de diriger la France. C'est-à-dire, en fait, qu'on accumule des pourcentages, on en tire une conclusion sur la popularité de la personne, mais nous ne savons rien des motivations qui ont justifié le choix de la personne. Il y a des gens qui votent Sarkozy parce qu'ils préfèrent sa cravate à celle de Hollande. Ou l'inverse. Moi, je suis en train de faire de la sociologie, hein, pas de politique. Hein. C'est-à-dire que, dans le principe, quand on fait des stats comme ça, en général, on ne peut pas aller faire des conclusions sur les individus. Parce que les statistiques considèrent que c'est toute chose égale par ailleurs. Il manque, je vais prendre un exemple moins engageant, il y a 63 élèves absents dans un lycée ce jour-là. Pourquoi? Et le CPE va arriver en disant « c'est le premier jour de soleil, ils sont tous tirés ». Et donc on en arrive à la conclusion, c'est quand il fait beau, les élèves viennent plus en cours, au moins le premier jour de beau temps. Quoi. J'en parle parce que ça m'est arrivé hein, quand j'étais pion. Et ceci dit, on tire une généralité, c'est peut-être vrai. Mais dans les 63 étudiants élèves absents, il y en avait peut-être 7 qui étaient malades. Et donc, on tire une généralité qui est un phénomène collectif, mais on ne peut pas tirer de conclusion sur chacun des individus de la liste. Je vous donne un autre exemple très concret. J'ai des problèmes à organiser mon comité de direction au sein de l'IUT. Il y a 8 membres qui sont les responsables pédagogiques des formations, plus la responsable administrative, quelques autres membres, mais machin. Et il y a quelques semaines, j'ai envoyé un mail en disant, j'étais à peu près tourné comme ça, en disant, vous commencez sérieusement à m'énerver. Il n'est plus possible de faire des comités de direction, il manque toujours 6 personnes. Vous avez tous des bonnes raisons individuelles pour justifier votre absence, mais moi, directeur, je suis confronté à un phénomène collectif. Parce que je comprends bien que lui, il a une réunion qu'il ne pouvait pas mettre à un autre moment, bon, soit. L'autre, il a un cours, c'est le directeur des études qui lui a placé, il n'a pas réussi à le bouger. Bon, soit, mais ceci dit, quand ils sont 6, ça veut dire que collectivement, ça donne au directeur l'impression que le comité de direction est devenu moins important que la réunion de bidule, le cours de machin, le TP de truc, le machin. Et donc, vous voyez la différence. Je ne pouvais pas dire que les individus qui étaient censés être présents au comité de direction agissaient envers moi avec du mépris pour mon travail. Mais par contre, ce qu'il y a de clair, c'est que collectivement, moi, j'étais confronté à un vrai problème, c'est que quand il s'agit de prendre des décisions, on n'est plus que 4. Et puis après, quand on met la décision sur la table, tout le monde gueule. On dit, ouais, t'as décidé ça, je comprends pas. Je dis, t'as eu qu'à venir, mon vieux, quoi. Et les autres? Et les autres? Les autres, ils font comme toi, ils ont une bonne excuse pour pas être là. Et donc, vous voyez, on est bien confronté à la différence entre un problème individuel Le collègue qui me dit, moi je ne peux pas être là, je vais au salon qui concerne ma licence professionnelle et ma profession la semaine prochaine. Hein, et chacun y va de sa bonne raison. Et puis collectivement, le directeur qui se retrouve avec un comité de direction réduit, restreint, qui ne peut plus prendre de décision de type démocratique. Donc vous voyez, le phénomène individuel, le phénomène collectif. Je reviens à mes problèmes parce qu'il faut quand même que j'avance. Hein. Donc, les techniques quantitatives sont conçues comme des outils d'analyse de grandes séries de données. On l'a vu, je vous ai parlé de Durkheim. L'analyse quantitative produit des informations chiffrées. Ça, vous vous en doutiez. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la manière dont on calcule un pourcentage, la manière dont on calcule des probabilités. Mais vous avez devant les yeux la liste à peu près exhaustive des outils qu'utilisent les sociologues pour faire des stats. Pas de moyens extraordinairement sophistiqués. On n'en est pas avec les problèmes de la physique et des sciences extraordinairement sophistiquées au niveau mathématique. Les outils que nous utilisons en sociologie, en termes de mathématiques, sont des outils. Comment ? Oui. Calcul proportionnel, déjà, c'est-à-dire associer deux variables et se demander, machin, calcul les lois de probabilité, loi normale, loi binomiale, loi de Poisson, hein, qui sont les trois plus connus, les coefficients de variation, coefficients de corrélation, je reviendrai sur ces dimensions-là, mais en gros, bon, vous avez moyenne, écart-type, hein, déjà, avec ces outils-là, vous pouvez faire des tas de choses sur les phénomènes collectifs. Alors, ces chiffres, évidemment, ne constituent pas une fin en soi, je vous l'ai dit, hein, puisqu'il faut faire un construit social. Ils permettent de saisir des régularités dans le comportement. Et, je vous le redis encore une fois, je pense que je vous ai bombardé avec ça, mais ce qui intéresse le sociologue, ce sont bien les régularités sociales. Hein, les gens qui s'intéressaient à l'exceptionnel et à l'exception exceptionnelle, vous connaissez cette théorie de l'exception exceptionnelle, hein, ce sont tous les pataphysiciens. Vous connaissez les pataphysiciens ? Alfred Jarry, Boris Vian, Henri Salvador, qui s'intéressaient à la régularité dans ce qu'elle avait d'exceptionnel pour être exceptionnel. Hein. C'est-à-dire, la loi générale ne les intéressait absolument pas. C'était d'ailleurs, ils luttaient fondamentalement contre la loi générale. Donc ce sont des antisociologues au possible. Hein. Alors, donc les régularités de comportement, et Serge Pogan nous dit, l'analyse quantitative offre aux sociologues des outils pour l'accompagner dans son raisonnement. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, le travail de Durkheim et ses fiches, les fiches de Durkheim du moins, transformées en statistiques, ou les enquêtes de Leplay, ne donnent aucun sens aux données. Le travail du sociologue, après, ça va être justement de leur donner du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie qu'on puisse mettre dans un patrimoine familial une bague trouvée dans la rue à 1,50 €? Combien de gens ont ça chez eux? Est-ce que c'est un phénomène social? La fréquentation des églises, combien de fois je vais à l'église par an? Est-ce que j'y vais à Noël, à Pâques et à la Trinité, comme on dit? Ou est-ce que j'y vais tous les dimanches? Ou est-ce que je vais à la messe du samedi soir? Ou est-ce que je fais toutes les messes concernant les 9 prières journalières des catholiques fondamentalistes, hein, qui vont de matine à je ne sais plus laquelle est la dernière d'ailleurs, hein, je sais, c'est les vêpres, hein, non, c'est pas les vêpres, non, il y en a une après le repas. Les nonnes, la neuvième, les nonnes, merci. Comme John, en fait. Oui, vous avez raison, ce sont bien ça, c'est bien ça. Donc, avec les techniques quantitatives, hein, on va trouver des notions qui vous sont probablement familières, hein, les échantillons, les corrélations, les questionnaires, les tableaux croisés. Alors, l'échantillonnage, c'est très clair, il s'agit de faire un tri dans la population. Je veux analyser les jeunes. Mais je n'ai pas accès à la totalité de la population des jeunes. Et je vais donc essayer de trouver une part de la population des jeunes qui soit significative de l'ensemble de la population jeune qui m'est accessible, ou qui y est mon échantillon. Parce que ça peut être les jeunes de l'UFR de droit en 2013. Hein, ça peut être les jeunes qui possèdent une automobile. Mais on va créer, et comme on ne peut pas tous les enquêter, on va créer un échantillon. Alors, il y a des techniques d'échantillonnage, mais ce qu'il y a de clair, c'est qu'il s'agit d'une parcellisation de la population, avec l'idée qu'on peut tirer de cette parcellisation, de cette part de la population, des régularités statistiques qui correspondent à ce que font les gens en général. Évidemment, ça pose toute une série de problèmes. Alors, j'avais mis, voilà, mais comme on ne peut pas saisir toutes les situations sociales, tous les comportements, tous les individus, elle construit ses analyses, la socio construit ses analyses sur des observations, des mesures ou des questionnements partiels. Alors, un sociologue qui va travailler sur les conditions de vie des ouvriers, par exemple, va interroger un échantillon d'ouvriers. Et une expression que vous avez déjà tous entendue, c'est la notion d'échantillon représentatif. Comment faire un échantillon représentatif? Alors, on a la méthode des quotas, on a la méthode du tirage au sort, Le plus célèbre de tous, c'est celui qui consiste à dire, voilà, je fais une enquête sur les jeunes, il y a la variable la plus déterminante du comportement que je veux étudier, c'est l'origine sociale, il y a 7% d'ouvriers dans la population, je vais analyser, dans ma population de jeunes, il y aura 7% de fils d'ouvriers. Il y a, le chiffre est inventé, excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a 7% d'ouvriers dans la population. Mais donc c'est bien ça, c'est-à-dire en fait on va essayer d'être représentatif. On sait bien que après, si on va au niveau de l'individu, on va avoir du mal à faire le lien entre l'individu lui-même et l'ensemble social. C'est-à-dire si on a une population qui est équivalente à 2 millions de personnes, faire un échantillon de 1300, 1400 personnes, c'est prendre à coup sûr des biais importants. Après, on va voir sur le terrain. C'est-à-dire, le principe, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, tous les sociétés de sondage que nous connaissons font des sondages aux alentours de 1100, 1500 personnes. C'est un nombre qui est facile à calculer. C'est-à-dire que c'est assez facile de faire du traitement de données sur 1500 réponses. Il n'y a pas besoin de système de calcul très très perfectionné. Le taux d'erreur est assez faible. Et donc, après, une fois qu'on a ces chiffres-là, on va voir sur le terrain en disant, bon, vous ne faisiez pas partie de notre échantillon. On en a conclu que y avait tel phénomène, tel comportement chez telle population. Vous êtes dans la population. Est-ce que ça correspond à votre comportement? Et donc, en fait, on va le retester de manière empirique. Et il s'avère qu'avec 1300, 1500 personnes aujourd'hui, les techniques de quotas surtout, qui est la plus utilisée par les instituts, on arrive à peu près à une réalité proche. Vous l'avez vu avec les sondages électoraux, par exemple, les journalistes et les politiciens se gaussent de l'erreur que commettent les instituts de sondage, mais sur une population électorale de 26 millions, arriver en créant un échantillon à 0,4% d'erreur, c'est une prouesse technique et mathématique. C'est-à-dire qu'on peut voir, c'est le coup du verre vide et du verre plein, on peut voir l'erreur, et puis c'est vrai que 49,8 et 50,2, c'est pas pareil, comme on dit chez les ch'tis. C'est-à-dire que si vous êtes à 49,8, vous avez perdu, et si vous êtes à 50,2, vous avez gagné. Mais ceci dit, comme vous ne pouvez pas enquêter les 26 millions d'électeurs, avec un échantillon représentatif de 1500 personnes, réussir à obtenir ce résultat, c'est pas mal, quoi. Donc on a des quotas qui sont relativement fiables. Maintenant, les notions de corrélation. Les sociologues calculent énormément de coefficients de corrélation quand ils font des données dans des enquêtes quantitatives. Comment varient les choses? C'est-à-dire, la consommation de pétrole diminue, diminue. Que font les Français dans leur bagnole? Et on regarde le nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus. Et on se rend compte que le nombre de kilomètres parcourus diminue. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire une corrélation très nette en disant moins la consommation de pétrole d'essence va diminuer corrélativement à la diminution de la mobilité des Français. C'est le cas depuis 2009. La mobilité des Français mesurée en termes de kilomètres diminue. Simplement parce que les gens ont de moins en moins de pognon. Et donc, il y a une part de la population qui est contrainte de réfléchir aux déplacements qu'elle effectue. Et à partir de ce moment-là, la mobilité diminue, la consommation va diminuer. Mais on faut se méfier parce que la consommation pourrait diminuer pour d'autres raisons. L'introduction systématique de la conduite économique dans le comportement des Français. Attention, la même variable peut être utilisée pour expliquer des phénomènes différents. Et donc, la liaison statistique, généralement, on la représente par un graphique et on voit comment fonctionne la corrélation. Alors, attention aux corrélations. Il y a un exemple très très célèbre dans l'histoire des statistiques, parce que ce n'est pas un sociologue qui l'a fait, c'est un mec qui s'appelait Ludwig von Bertalanffy, un statisticien, mathématicien, physicien, du milieu du XXe siècle. Et C'était, je vous l'ai déjà cité à ceux qui étaient là il y a 2 ans, ce monsieur disait, un statisticien, c'est quelqu'un qui vous dit que quand vous avez les pieds dans le congélateur et la tête dans le four, vous subissez une température moyenne. Il était lui-même statisticien, était extraordinairement méfiant sur les conclusions qu'on pouvait tirer de ces chiffres. Et alors, il s'est évertué pendant sans doute des heures et des heures de travail à trouver des corrélations débiles. Et il en a trouvé une, le coefficient de corrélation, on va le calculer, c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne. C'est assez simple à calculer, c'est-à-dire on met tout en valeur absolue, puis on voit comment ça varie d'une période à l'autre, et on aplanit tout, et puis on compare les deux variables. Donc le résultat, plus il est proche de 1, plus la corrélation est forte. Et alors Ludwig von Bertalanffy, il a trouvé une corrélation d'enfer en 1948, il a remarqué que le coefficient de corrélation le plus parfait, c'est-à-dire 1, était obtenu en comparant le nombre d'internés psychiatriques et la vente de postes de radio. En 1948, quand on prend de la création de la radio jusqu'à la date de l'enquête, si vous faites un coefficient de corrélation, vous obtenez 1. C'est-à-dire que plus il se vend de postes de radio, plus il y a d'internés psychiatriques. Et donc, vous vous doutez bien, le raisonnement qu'il y a derrière, c'est méfions-nous de cette corrélation. Je reviens, par exemple, je parlais de délinquance tout à l'heure, les Arabes sont des voleurs. Bon, je vais sortir du truc en disant les Maghrébins sont des voleurs, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des Arabes, on n'en a pas en France, hein, où ils sont avenus Foch et leur larcin sont bien, bien plus importants que de pitcher une mobilette, je peux vous le garantir, hein. Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ils partent avec les clubs de foot, par exemple. Du moins, ils ne sont pas encore partis, mais ça viendra. Hein. Dans le système, les Maghrébins sont des voleurs. Vous faites le coefficient de corrélation, et effectivement, vous tombez sur une corrélation significative. Donc le statisticien va vous dire, mais tu vois bien, plus il y a de Maghrébins dans notre société, plus il y a de voleurs. Et donc le raisonnement est facile. Mais le sociologue va arriver en disant, mais est-ce que tu es sûr que la variable maghrébin, c'est la bonne, quoi ? Est-ce que tu ne pourrais pas t'interroger un petit peu sur la misère ? Et regarder le nombre de gens qui touchent moins que le SMIC, par exemple. Et regarder le nombre de gens qui sont dans des logements qui n'ont pas été rénovés depuis plus de 12 ans. Et tu vois, regarder la population immigrée à laquelle fait appel l'industrie française. Et on s'aperçoit très très vite que la corrélation de l'augmentation de la petite délinquance et de l'incivilité, même parce qu'en fait notre problème quotidien, c'est plus l'incivilité que la vraie délinquance, elle est liée à l'augmentation de la misère. Et plus il y a de pauvres dans une société, plus il y a de larcins. Et moins les valeurs bourgeoises de la politesse, de la courtoisie, du respect de l'autre ne s'imposent à la société, plus il y a de petits cons qui nous emmerdent. C'est-à-dire des gens, vous allez avoir un groupe, je vois par exemple hier, j'ai animé sur la place publique une réunion, une manifestation sur la sécurité routière, on a reçu 300 collégiens, et ce matin, on en parlait entre collègues, est-ce que ça a réussi ? Oui, c'est une belle manifestation, etc. Mais le discours a porté sur les 3 collégiens qui nous ont fait chier. On est tombé sur 3 collégiens, mais vraiment des sales cons, à baffer, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'adulte, si j'avais pu, quoi, je leur aurais mis un coup de boule. Je suis directeur de l'IUT, je me tiens à peu près, hein, mais dans le système, vous voyez, on a reçu plus de 300 collégiens, disais-je, et on focalise sur les quelques individus qui nous ont pourri la matinée quand même, hein, parce qu'ils sont quand même passés de stand en stand, ils ont embêté le conducteur de bus, ils ont fait suer le monsieur de la prévention routière, ils ont énervé le monsieur de la sécurité routière, ils ont fini par gonfler tellement le pompier que le pompier les a virés de leur stand. Donc vous voyez, et en fait ce sont ces gens-là qui deviennent le phénomène particulier. Et là, par contre, on est en danger intellectuellement. Parce que j'en reviens sur ce que pourrait dire un sociologue. Le journaliste nous dit, une vieille dame s'est encore fait agresser dans les rues de Lyon aujourd'hui. Ça, c'est l'information du journaliste. Le sociologue arrive et il dit, sur 987 923 vieilles dames qui sont sorties dans la rue aujourd'hui, 3 sont tombées et se sont pété le fémur, 1 s'est fait agresser. Et donc l'information, la vraie, c'est qu'on peut sortir dans la rue avec une probabilité très très faible d'être ennuyé par le social, par l'ensemble de la société. Regardez tous les progrès qui ont été faits, ne serait-ce que mon cheval de bataille, à moi, la sécurité routière. En 1974, 20 millions de véhicules sur les routes, 14 000 morts par an. En 2013, 34 millions de véhicules sur les routes, 3 000 morts par an. On a socialisé les conducteurs automobiles. Il n'y a plus de gens qui se comportent comme des tarés. Quand... Ben oui, vous réagissez. Pareil. C'est-à-dire que moi, je parle en sociologue. Et c'est vrai que moi, par exemple, qui respecte les limitations de vitesse, je traverse les villages à 50 à l'heure. C'est très, très rare, les gens qui me doublent comme des tarés. Les gens se mettent derrière, font des appels de phare, font un doigt d'honneur, gueulent, machin. Quand ils ouvrent leur carreau, ils font une queue de poisson. Quand ils me doublent, pardon, ils font une queue de poisson. Ou quand ils me doublent, ils baissent leur carreau en me traitant de tous les noms, y compris liés à ma sexualité. C'est vrai, ça existe. Mais de mon temps, c'était banal. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'allais en discothèque avec ma 204, j'avais 20 ans, j'avais une tête à claque, donc je ne voulais pas de relation avec les flics, aucune. Donc je ne buvais pas, je respectais les limitations de vitesse, et pas pour des problèmes de sécurité routière, simplement parce que je ne voulais pas d'interaction avec la police. Je tenais mon inspiration de Brassens qui disait « Moi je suis anard, mais je marche dans les clous, parce que je ne veux pas que les condés viennent m'emmerder. » Et quand j'avais 20 ans, les jeunes de mon âge sortaient de discothèque ivres-morts et se mettaient au volant et se tuaient et se blessaient à vie. Et donc, vous voyez, on va dire, il y a encore des gens qui roulent comme des tarés, mais le sociologue va dire, excusez-moi, mais statistiquement, l'effort social réalisé a été gigantesque. Et on est toujours dans cette démarche, c'est-à-dire un phénomène individuel, phénomène collectif. Bon, je vous embête depuis longtemps. Vous n'avez pas la tête cassée ? Je suis intarissable. Alors, voilà un exemple parfait de sociologie statistique. Un tableau croisé, origine sociale, réussite au bac. Comment ça se lit ? Vous avez ici ce chiffre qui dit qu'en 2009, 72,3% des jeunes gens qui se sont présentés au bac ont réussi le baccalauréat. Et on va pouvoir faire des comparaisons en disant, tiens, fils de prof, c'est une insulte, hein, 93% des fils de prof réussissent au baccalauréat. Et puis, on a 69% des fils d'employés qui réussissent au baccalauréat. Donc, en fait, intuitivement, on fait le lien entre la moyenne, la tendance générale, et la catégorie sociale. On fait ça à longueur de temps, hein. Tout le temps. Donc, c'est pas débile comme raisonnement. Sociologiquement, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on a des chiffres, on leur donne un sens, et on voit bien quand même que c'est quand même pas innocent si 96% des jeunes gens issus de familles dont le père ou la mère sont profs ou assimilés passent le bac général avec succès. C'est pas quand on le compare avec les 57% des non-renseignés ou les 57% des agriculteurs. Parce qu'il va y avoir tendance à... pour un fils d'agriculteur, aller faire un bac pro ou un bac techno, et machin, mais qu'il y a un degré de réussite qui est plus ou moins... machin. Bon. Après, donc c'est le raisonnement sociologique traditionnel. Maintenant, méfions-nous de ce que ça veut dire échec ou réussite scolaire. Je vais vous donner un exemple très clair, issu de mon propre parcours. J'étais le troisième d'une fratrie, le premier à obtenir le baccalauréat. Donc le premier à m'inscrire à la faculté, le premier à obtenir un DEUG, une licence, une maîtrise, un DEA. Et toute ma famille était très fière du fiston. J'étais en DEA dans un groupe où il y avait une jeune femme qui s'appelait Sylvie. Elle avait deux frangins avocats, une sœur chirurgienne. Elle était en DEA de sociologie, dans la même classe que moi. Mais alors pour toute sa famille, elle était la honte. Mais carrément la honte, quoi. Elle le disait, quoi. Moi, je n'ose pas dire ce que je fais comme étude, quoi. Parce que mes parents, ma famille, toute ma famille estime que la sociologie, Sylvie, parce qu'elle va devenir femme d'avocat, femme de chirurgien, et puis elle n'aura pas besoin de gagner sa vie, elle peut bien faire sociologie, on va pas l'embêter avec ça. C'est-à-dire que moi, ce que je vivais, d'ailleurs personnellement, comme une réussite scolaire, après avoir fait un CAP, un BEP, un bac, etc., dans la même classe, j'avais quelqu'un qui était avec moi, qui le personnalisait, qui disait du moins que pour sa famille, c'était clairement un échec scolaire. Donc, voyez, toujours le même raisonnement, je prends une donnée quantitative, j'en tire une conclusion et je m'en méfie. Je sais ça faire de la sociologie. C'est-à-dire, je dis, il y a quand même une régularité, c'est pas innocent si les gens se suicident le dimanche après-midi. C'est pas innocent si dans une société rurale, celle de 1900, les gens se suicident beaucoup plus en ville qu'à la campagne. Et que dans une société urbaine, celle de 2013, Boltanski démontre que sans ambiguïté, aujourd'hui, les gens se suicident plus à la campagne qu'en ville. On a des régularités sociales. Mais il faut se méfier de ces régularités sociales. C'est-à-dire il faut s'en servir pour construire les raisonnements. D'où l'intérêt de passer à d'autres variables. Donc, les techniques quantitatives, elles permettent de dégager des tendances, des corrélations, et elles sont souvent, comme je le disais tout à l'heure, très mal utilisées ou mal comprises. Les techniques qualitatives, maintenant. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite, hein, excusez-moi. Donc, elles sont issues de la tradition weberienne. On l'a vu, hein, je vous en avais parlé, Weber, lui, cherche à comprendre. Le combien, ça n'intéresse pas bien. Lui, il ne cherche pas à répondre à la question combien, Durkheim faisait ça, peut-être que ça ne le dérangeait pas, mais lui, il voulait créer un autre raisonnement, et lui, c'est le pourquoi qui l'intéresse. Pourquoi le capitaine de vaisseau reste-t-il sur son navire jusqu'au bout? Pourquoi les ouvriers ne se révoltent-ils pas? Pourquoi les gens pauvres, qui voient la richesse si près de chez eux, ne disent rien? C'est ça, les questions qui sont pertinentes pour Weber. Et on ne peut pas transformer ça en statistique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des outils qui soient différents. On ne peut pas faire un pourcentage sur l'absence de révolte. Donc, Weber nous dit qu'il faut essayer de comprendre les gens. Et à partir de ce moment-là, eh ben, toutes les enquêtes qui vont suivre après la sociologie weberienne, elles vont aller vers l'idée qu'il faut aller voir les gens, les faire causer, et voir si on peut tirer des régularités qualitatives sur leur comportement, du pourquoi ils ont fait ça, comment ils agissent, dans quel sens, quelles valeurs ils ordonnent, comment s'organise notre société, etc., etc. Donc rien qui ne porte, ou du moins des choses qui sont extraordinairement difficiles à chiffrer. Donc on va focaliser sur un nombre réduit de cas, on va accorder notre attention à une analyse en profondeur des processus sociaux, et on va chercher le sens que les acteurs attribuent à leur comportement. Alors, les techniques les plus fréquemment utilisées en sociologie, vous les connaissez également aussi au moins de nom, hein, c'est l'entretien, l'observation directe, la collecte documentaire. Hein, donc, ça fait qu'on en a, la première, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on a deux techniques très très importantes en socio, c'est l'entretien, l'observation directe. Ces différentes méthodes, elles vont être combinées dans les enquêtes, hein, et l'objectif, c'est de les confronter au réel, hein, après les avoir constitués. Alors, la validité des enquêtes, elle repose évidemment sur la mise en œuvre de ce que nous, on appelle des procédures de triangulation dans la collecte des données, c'est-à-dire, en fait, on va essayer de croiser les comportements, on va faire des triangles, la cause, la conséquence, l'effet, on va essayer de tout voir, tout mélanger, on va essayer de comprendre pourquoi tel acteur dit ça à tel moment de telle chose. Donc vous avez la triangulation propos, action, individu du moins, propos, environnement. On va essayer à chaque fois comme un GPS en fait, de créer trois valeurs pour se dire c'est vers là qu'on se situe. Alors vous voyez que même mes gestes sont significatifs, on est plus dans l'à peu près. Autant on peut dire il y a tant de personnes qui sont suicidées le dimanche, tant décembre 1897, on a des fiches de police, on peut faire des stats. Autant quand on va faire du compréhensif et du qualitatif, on va être plus dans le comment je fais, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, d'où la posture dont je vous parlais au départ, qui est de dire, je suis cet œil-là. Je regarde comme ça. C'est-à-dire, je ne serai jamais objectif. Je suis un sujet social. J'ai beau être sociologue, avoir les techniques pour faire la rupture ethnocentrique, je ne serai jamais rien d'autre qu'un objet de la société. Et à partir de ce moment-là, quand je vais faire une analyse qualitative, je me dois de me situer par rapport à mon lecteur. Simplement pour que, conformément à la tradition popérienne, les gens qui m'écoutent puissent dire « Oui, mais il dit ça, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord parce que son œil est biaisé. » Et le sociologue ne s'en vexera pas parce que le sociologue pense que tous les yeux sont biaisés. C'est-à-dire, et on revient là à un exemple caricatural que je ne maîtrise pas plus que ça, mais des dialogues célèbres entre Einstein et Bohr. Einstein disait, ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est que quand je ne regarde pas la Lune, elle n'existe pas. Et Bohr lui répond, mais moi quand je ne la regarde pas, je n'en sais rien. Ils sont pas loin de dire la même chose, mais Einstein n'osait pas franchir le pas. C'est un petit peu comme dans le film du réalisateur, où on voit Salieri et Mozart. Il prend sous la dictée le troisième mouvement de la messe en si mineur, et il y a Salieri qui lève la tête et qui lui dit « Mais vous n'allez quand même pas mettre des clarinettes !»« Et si, mon pote, je vais mettre des clarinettes, là, quoi !» C'est-à-dire que l'autre, il a deviné qu'il allait le faire, mais que jamais il oserait. Et justement, c'est ça qui fait Mozart. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire la qualité. Alors, c'est une légende, hein, parce que c'est le film Mozart est basé sur le bouquin de Dumas, hein, donc c'est pas lié à la réalité de Mozart. Mais je vous parle juste de l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, le sociologue qui va faire du compréhensif, il va toujours être dans l'aléatoire. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'étais confronté à un phénomène, je pouvais pas faire de stats dessus. Et donc, mais par contre, je constate que, ben, à un moment donné, quand je suis dans un camion, le chauffeur, il y a une guêpe qui rentre, il est effrayé par les guêpes, le camion est lancé à 92 km à l'heure, ça lui colle une angoisse terrible, il aimerait bien enlever ses chaussures pour fracasser la guêpe, il ne trouve aucun instrument d'autre que le combiné téléphonique, et POM ! Il fracasse le combiné téléphonique sur le pare-brise, plus solide que le combiné téléphonique se casse, la guêpe s'envole par la fenêtre comme elle aurait fait peut-être normalement, mais moi je me dis, tiens, c'est une forme d'appropriation sociale des techniques très intéressante. C'est-à-dire que, même si je sais lire, je vais retourner dans le mode d'emploi du Radiocom 2000, il n'est pas indiqué, cet appareil n'est pas fait pour écraser les guêpes sur les pare-brises. C'est-à-dire, vous voyez comment on raisonne, l'appropriation sociale de la technique, de l'outil, elle va être en fonction de l'environnement. Et moi, j'avais des problèmes d'organisation, hein, c'est-à-dire ma question fondamentale, c'était ça. Est-ce que ça va modifier l'organisation du travail? Mais en regardant faire les chauffeurs routiers, comment par exemple, avec un clou qui dépasse sur une palette, vous avez un clou qui dépasse d'un centimètre là, et puis l'autre chauffeur se trimballe la palette depuis le début de la semaine, il met des colis dessus, il enlève des colis, des machins, des cartons, puis à chaque fois, évidemment, ça perce le carton. À un moment donné, il arrive dans un entrepôt, et puis on lui dit, il cherche partout, t'as pas un marteau? Non? Oh ben, il finit par enlever sa pompe,
sa chaussure de sécurité, pardon, j'ai trouvé le truc du coup.
Il finit par enlever sa chaussure de sécurité, et avec sa chaussure de sécurité, il enfonce le clou. Il essaye, du moins. Et donc, c'est bon, monsieur Fournier, je vais y arriver. Et donc, dans le système, vous voyez, quand on va faire de la sociologie qualitative, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le sens que les acteurs donnent à ça. Je continue avec mon exemple, parce que la démonstration de ma thèse était la suivante. C'était l'idée de dire, on nous disait, les chauffeurs routiers ont des valeurs de liberté. Et quand on interrogeait les chauffeurs routiers, ils disaient, moi, l'intérêt de mon métier, c'est que je suis ouvrier, mais je gagne un peu plus ma vie que tous les ouvriers, évidemment, je fais 260 heures par mois, et que je n'ai pas de chef derrière le dos. Et moi, je suis arrivé avec mon hypothèse de type taylorien, en disant, mais attention, le radiotéléphone met le chef derrière le dos, quoi. Et donc, ça va casser les valeurs fondamentales des chauffeurs routiers. Mais il va se passer des choses aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 1990, dans une entreprise où il n'y a pas de radiotéléphone, les chauffeurs doivent prendre contact avec le patron pour avoir le boulot. Là, c'est le patron qui va téléphoner pour donner le boulot. Et donc, on va assister à quelque chose là qui est... Est-ce que c'est une déqualification? Est-ce que c'est une restructuration du système? Et puis, en fait, dans les faits, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, je me disais, j'étais presque en train de conclure ma thèse en disant, Taylor avait raison, quand on rationalise les outils, les gens perdent de leur qualification et de leur liberté d'action. Puis, en observant plus longuement, je me suis rendu compte que le chauffeur me disait, ah ouais, mais maintenant, il y a le radiotéléphone, c'est super. Au moindre emmerde, le magasinier veut pas de mon colis. Ah, avant, il fallait que je me débrouille. Maintenant, allô chef, il veut pas de mon colis. Et en fait, le sociologue se dit, mais le chauffeur gagne en liberté. Il augmente ses marges de manœuvre. C'est-à-dire, on a un autre argument. Le chauffeur qui me disait, mais oui, mais avant, il fallait que je téléphone au patron. Mais est-ce que tu t'es déjà imaginé la galère que c'est de trouver une place de stationnement de 16,40 m avec une cabine téléphonique? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ben, les chauffeurs routiers, eux, ils étaient obligés de se la poser une fois toutes les demi-journées. Et donc le chauffeur qui dit, mais j'ai le radio-téléphone dans mon véhicule, mais c'est génial. Et puis il y avait les vieux de la vieille qui disaient, ouais, moi, le radio-téléphone, si tu me mets ça dans ma cabine, je te le passe à travers la tronche. Ben, qu'est-ce que font les employeurs? Ils disaient, ben, je vais être patient, je vais attendre qu'ils se barrent. Et puis quand je vais recruter un nouveau chauffeur, je vais mettre le radio-téléphone. Et donc, le vieux chauffeur ne me râlera pas dessus. Il continuera à faire son boulot qualifié comme il le faisait avant, avec recherche de fret, etc., le boulot qualifié. Et puis, le nouveau qui arrivera, bah, c'est comme ça que ça marchera. De toute façon, on ne pourra rien faire. Et donc, voilà comment les patrons ont... C'était une excellente idée. Hein, les patrons ont introduit le radiotéléphone quasi systématiquement dans les véhicules. C'est-à-dire que, outre qu'il est devenu beaucoup moins cher, accessible, etc., beaucoup plus efficace aussi, techniquement, mais il a permis aux entreprises de s'approprier le savoir de distribution des frets. Ça a permis de créer les DGLT. Donc, ça m'a permis de trouver un boulot. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, mais en plus de ça, pour les anciens routiers qui étaient les vieux de la vieille, ben, l'idée, c'était de dire, ben, on va les laisser faire avec leurs qualifications. On ne va pas les embêter sur leur terrain. Ils savent trouver du fret. Qu'ils continuent. Et puis, quand ils quitteront le poste, ben, on équipera le véhicule. Allez, on aura un jeune conducteur qui n'aura jamais rien d'autre comme technicien, comme condition de travail. Et il fera avec ce qu'il a. Donc vous voyez, on est là, je viens de vous tenir le raisonnement sociologique de ma thèse tel qu'il est. Je n'ai pas fait de stats, je ne peux pas généraliser à l'ensemble social, mais j'ai quand même expliqué des phénomènes. J'ai donné du sens au comportement des acteurs. Et j'ai réussi à le faire parce que j'ai fait des entretiens, j'ai fait de l'observation, je suis monté dans les camions, j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres dans les véhicules. Mais je suis né là-dedans, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'était assez facile quand même. Et on voit que donc dans la collecte des informations, elle est très très différente, mais la démarche du sociologue, elle reste identique. C'est-à-dire, j'ai une hypothèse, je vais voir sur le terrain, j'analyse les concepts, les notions, qu'est-ce qui t'amène à penser ça, machin, je retourne voir sur le terrain. Les chauffeurs routiers, ceci, disent ah, liberté, absence de liberté, diminution de la liberté. Je retourne dans mon bureau, j'en parle, machin, je vais voir les philosophes, la notion de liberté dans le travail, l'organisation du travail. Je retourne sur le terrain, je soumets mes hypothèses aux chauffeurs routiers qui me disent, moi, ton radio-téléphone, je te le fais bouffer, et qui se servent du combiné comme insecticide, etc. Et je vois l'appropriation que les gens font des techniques. Et je reviens dans mon bureau où je fais un rapport en disant ce machin-là, ça va révolutionner l'organisation des transports. C'est-à-dire qu'on est en train de faire passer la qualification traditionnelle du chauffeur routier de la cabine du camion vers les centres sédentaires des entreprises de transport. Mais contrairement à ce que pourraient penser les Tayloriens, ça ne diminue pas la liberté des chauffeurs. Ils vont s'approprier la nouvelle technique et greffer leurs valeurs autour de cette technique, simplement parce que cette nouvelle technique, c'en est une qui s'ajoute aux centaines de milliers qu'ils possèdent déjà. Comment tourner le volant, comment démarrer le moteur, comment entendre le bruit du camion, comment conduire le camion sur la route, comment remplir le camion, comment charger, comment machin, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, le spectre technique global du conducteur routier est impacté par le radio-téléphone. Mais ça n'est pas la révolution. Ça n'est pas la révolution. C'est une modification qui va s'inscrire dans le spectre technique plus global du système. Donc vous voyez, j'ai donné du sens au machin, mais je ne peux pas tirer de stats sur les données. Je vais quand même conclure parce que je vais arrêter de vous embêter. Alors, l'objectif des méthodes qualitatives est de comprendre les situations sociales et non de tirer des régularités statistiques. Les enquêtes qualitatives sont parfaitement adaptées à l'analyse des situations rares, c'est celle dont je viens de vous parler. Alors, vous voyez, j'aurais pu faire plus long, hein, l'entretien, l'ethnographie, je vais aller vite, hein, excusez-moi, mais l'ethnographie, si vous voulez voir des choses sur l'ethnographie, je vous conseille la lecture d'un très très grand anthropologue qui s'appelait Bronislav Malinowski. Qui a fait des enquêtes magnifiques, dont notamment un livre qui s'appelle Les Argonautes du Pacifique occidental, qui est la base de ce qu'on appelle l'ethnographie. L'idée, c'est de dire, on va aller chez les gens. on va s'installer au milieu des gens. Et on va voir ce qui se passe. C'est un peu ça. Alors, l'observation, elle peut être distante, c'est je regarde un groupe, comment il agit, ou elle peut être in situ, c'est-à-dire en situation. Faut que je retrouve le titre, ça doit être un monsieur qui s'appelle Liner, mais il y a un superbe bouquin des années 70 aussi qui s'appelle L'établi. L'établi, et c'est l'histoire des. C'est un sociologue qui devient ouvrier, mais qui se fait engager comme ouvrier. Vous connaissez le nom de l'auteur? Vous vous rappelez? Non. Mais c'est un sociologue, hein, il est diplômé en sociologie, et il s'en fait embaucher comme ouvrier, et il va observer le groupe social des ouvriers de l'atelier qu'il a autour de lui. C'est génial. Parce que c'est superbement bien écrit, en fait. Parce que ça, c'est très important aussi, la restitution des données. Et puis, alors, les récits de vie, c'est une autre technique qui est utilisée. C'est, on se pose devant la personne, on l'enregistre et on lui dit, racontez-nous notre vie, quoi. Alors, racontez-nous votre vie, et à travers un prisme. Alors, le biais de ce truc-là, c'est que les gens racontent leur vie en fonction de la manière dont ils la vivent au moment où ils en parlent. Mais l'intérêt, c'est de recueillir des données que nous n'aurions pu de toute manière. Et on peut, en regroupant des récits de vie d'une population précise, par exemple celle des personnes âgées de 70-80 ans au sein du même village, on peut trouver des réalités. Il y a peut-être Madame Dupont qui a vu le phénomène sous cet œil-là et Monsieur Durand qui l'a vu sous cet œil-là. Mais ceci dit, on peut dire que le phénomène lui-même, il a impacté les gens suffisamment pour que ce soit gravé dans leur mémoire collective. Alors, les récits de vie, je ne connais pas d'auteur. Donc, en guise de conclusion, bon, vous l'aurez compris, c'était tout le sens de mon exposé, ce ne sont pas les outils et les techniques qui font la scientificité de la sociologie. La sociologie n'est pas objective. Elle est faite par des sujets sur des sujets. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut renoncer à l'objectivité. Ce qui va faire, et j'ai eu également l'occasion de vous faire plusieurs allusions, ce qui va faire l'intérêt de la sociologie, c'est qu'elle crée du sens et qu'elle est réfutable. Dans le sens popérien du terme. Le champ de l'enquête est clair, je délimite mon enquête et je ne veux pas dire plus que ce que j'ai dit. Il faut pas, quand je parle des jeunes motards de 22 ans qui fréquentent les discothèques, il ne faut pas généraliser mon raisonnement aux vieux motards, il ne faut pas généraliser le raisonnement à ceux qui ne fréquentent pas les discothèques, etc. Le raisonnement tient dans ma population. Les hypothèses de travail doivent être claires pour le lecteur, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Bref, en fait, le lecteur, l'auditeur du sociologue peut réfuter le raisonnement. Soit pour lui dire, vous avez tort, on a le droit de penser le contraire, soit pour lui dire, vous avez oublié d'analyser ça. Et c'est ça le plus important. Et l'autre sociologue va dire, vous considérez que c'est ça le plus important, c'est votre droit. Donnez du sens à ce que vous voulez nous dire. Ça n'enlève rien au travail que j'ai fait. Alors, moi, je me suis fait disputer le jour de ma soutenance de thèse parce que je n'avais pas parlé des classes sociales. Ah, moi, j'y crois pas aux classes sociales. Alors, c'est un problème. Donc, au moment de ma soutenance, moi, j'ai dit, les classes sociales, dans le transport, c'est délicat. Il y a 90 000 personnes qui travaillent dans le transport. Il y a 43 000 artisans sans salariés. Qui ont des comportements d'ouvriers et qui ont socialement un statut d'entrepreneur, je préférerais pas me lancer sur ce terrain. C'est-à-dire, j'ai détourné le problème en disant, en clair, moi je crois que les classes sociales c'est un concept et que, contrairement à ce que pensait Marx, les concepts ne se rentrent pas dans la tronche pour faire la révolution. C'est peut-être mon anti-marxisme primaire qui m'amène à penser ça. Donc, vous voyez, le système, on ne peut pas tout dire sur le phénomène qu'on étudie. Et même, il y a pire que ça, c'est que chaque fois que vous allez parler, regardez même dans vos conversations quotidiennes, c'est ce que vous avancez qui permet à l'autre de dire que vous avez oublié des trucs. Et qui lui permet de lui dire, vous avez tort. C'est-à-dire, on est dans un rapport dialectique, et vous allez dire quelque chose, et la réponse que va vous faire la personne, elle est liée à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, en gros, il va vous donner tort parce qu'il a réfléchi sur ce que vous disiez, mais il n'y aurait jamais pensé si vous n'aviez pas dit ce que vous aviez dit. Et donc, on est dans ce que les sociologues appellent une circumincession. On utilisait un terme compliqué pour dire simplement un tourbillon qui grimpe et qui prend de la vitesse de plus en plus. C'est un terme utilisé par les physiciens. Parce qu'en fait, le système, plus on nourrit la culture, plus elle est importante, plus elle se nourrit, et on a un phénomène que Edgar Morin qualifierait d'auto-écoproducteur, c'est-à-dire, en gros, le savoir, le sens augmente en fonction du nombre de savoirs qu'on est capable avec lequel on est capable de l'alimenter. Je m'arrêterai là. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, bravo et merci. On aurait pu en prendre une heure de plus. Hein. Donc, je vais faire de la sociologie de l'UTB. Donc, les absents ont eu tort, comme d'habitude. Hein. Et donc, je crois qu'on a passé une après-midi vraiment très riche. Merci, Monsieur Mauny. Et puis, à l'année prochaine, si vous le voulez bien. Voilà.
Hein. J'ai arrêté. Je vous remercie beaucoup. Mon exposé était un peu décousu, mais je me laisse emporter par mes explications. Des fois, j'ouvre des parenthèses et puis je me noie dedans. Hein, donc.